Mesdames et messieurs, c'est le commandant de régie qui vous parle. Auditeur de Radio FMR Service Mondial, merci de nous écouter sur le Fluog Vorbis. Notre programme va être relayé sur les 89,1 mégacycles en modulation de fréquence sur la région de Toulouse à partir de midi pile, temps commun européen. Les sorties de l'appareil sont marquées sur votre écran en haut à droite par une croix ou un bouton rouge. La température au sol est de 0 degré quand même, on se les gèle pas mal. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et dans l'attente de nos émissions normales, l'hymne officiel vous est interprété par Fred Rabold, Undis Bavarois Orchestra.
Radio FMR 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, comment allez-vous? Salut Thomas.
Salut Xavier.
Salut Sabrina.
Bonjour.
Ouais, ça faisait longtemps, enfin bon voilà, patiti patata, ceci dit, nous sommes le samedi 4 février, il fait gris, il fait froid et vous écoutez la radio. Comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, télé, avec un très 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 gros débrief sur Angoulême. Et nous on est en direct, c'est pas comme Radio Radio. Puis ensuite le cahier du sport et à partir de 15h, du mix avec Zarma Farai, c'est du reggae. 17h, vie d'ordure, c'est du punk. 19h, Dada, ça c'est autre chose. 20h, la CTO Experience, et c'est du... Oh là, c'est du Fabrice. 21h30, Liquid Sky, c'est l'électro. Et à 23h, jusqu'à 4h du matin, Breakbeat Experience avec SK, c'est Payo. Vous écoutez FMR, nous sommes en direct sur les 89.1 MHz jusqu'à 5h du matin.
FMR, vous n'avez jamais écouté de radio.
Il tue quand même ce jingle, hein.
C'est
moi qui l'ai fait.
Pardon, excusez-moi.
Ministère et
Eh ben oui, on est de retour d'Angoulême. Je sais, on a fait une interruption de 2 semaines. On a failli laisser l'occasion à Radio Radio, dans l'émission qui est avant nous, de faire une rubrique BD. Oh, c'est dommage, hein. Je crois qu'on les a coupés, on l'a même pas fait exprès.
Oui, enfin bon, de toute façon, ils annonçaient le programme du festival qui s'est déjà déroulé, donc c'était pas très intéressant de toute façon.
C'est, comment dire, ça s'appelle être sérieusement à la bourre, et vous savez, vous avez l'impression de regarder les émissions soi-disant directes à la télé, enfin c'est n'importe quoi. D'ailleurs, à propos de studio télé, le studio Radio FMR ressemble plus en plus à un studio télé, parce que là on se fait mitrailler de photos et tout ça, faudrait qu'on arrête.
Tu veux dire qu'il y a, c'est une émission en images?
Oui.
Peut-être qu'on peut retrouver ces images quelque part sur le net?
Pas de suite malheureusement, puisque donc le site est en stand-by pendant...
En quarantaine.
Depuis 40 jours, et à mon avis, j'espère que ça va être arrangé d'ici 15 jours, je n'en sais trop rien, donc pour l'instant c'est figé, mais après vous retrouverez tous les enregistrements, toutes les émissions. Mais en plus, désormais, les petits bonus. Thomas.
Alors attends, j'ai pas suivi là.
Les photos.
Ah oui.
Et il y aura d'autres choses. Il y a aussi les chroniques déjà qui sont écrites pour une partie d'entre elles. Et en plus, au fur et à mesure, on va rajouter des trucs.
Oui, on va rajouter des photos. On pense aussi à d'autres styles d'images plus féminins, on va dire. Et voilà. Alors d'ailleurs, voilà. Je vous annonce en exclusivité. Bon, alors évidemment, c'est toi, Xavier, qui fera la sélection ultime puisque c'est toi qui t'occupes du site. Mais j'ai quelques photos compromettantes. Donc voilà, je pense que ça pourra alimenter la curiosité de nos auditeurs.
J'ai vu ta signature sur un site d'info assez connu, actuabd.com.
Oui, je me suis j'ai craqué.
Pas mal, pas mal. Bien. Oui, je vais m'y remettre aussi d'ailleurs sur ce site. Et on n'est pas là que pour ça, s'il vous plaît. On était donc au festival de la bande dessinée d'Angoulême, dont c'était la 33e édition.
Oui, c'est ça.
Cette année, le président, c'était Wolinski. Plutôt étonnant puisque c'est un dessinateur de presse. On pourrait faire un sujet, je ne sais pas, sur actuellement l'affaire donc de la représentation dans les caricatures de presse du visage d'Allah et du prophète, ce qui est très mal vu évidemment par les croyants du monde musulman, mais surtout pris très à partie par les islamistes. On pourrait parler effectivement de l'affaire du voile du dernier pétillon qui vient de sortir, mais bon, on n'a pas le temps tout simplement parce qu'on a un programme qui est super compressé. Donc on va commencer de suite. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, avec The Review of Press, et on va commencer de suite. Allez, hop. Et pas parti.
Une revue de presse spéciale bande dessinée aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, j'ai vraiment un son de merde là dans mon micro, je sais pas pourquoi, enfin bon, on s'en tape. Après tout, une revue de presse assez costaud, tout simplement, parce que le festival d'Angoulême, c'est l'occasion pour plein de journaux de se dire « Ah mince, la bande dessinée, il y a plein de lecteurs, ça marche à mort, ah mais il faut qu'on s'y mette et tout ça ». Donc on vous fera grâce du supplément bande dessinée de lire, du Libération daté de jeudi dernier, spécial bande dessinée où tout était jeudi il y a 10 jours, voilà, où tout était dessiné, de la Charente Libre, le quotidien régional sur la région Charente, justement sur le département de la Charente dont la capitale est Angoulême. Toutes les infos qu'ils ont pu donner, je vous fais grâce aussi du Libération, je vous fais grâce du Télérama.
En gros, tous les grands quotidiens s'y sont mis, voilà.
Voilà, et toute la presse générale, on s'en tape. On va commencer par le Spirou, numéro 3537, qui n'est déjà plus en kiosque, puisque oui, c'est un hebdomadaire.
Celui avec la femme à poil en couverture.
Et oui, c'est la première fois qu'il y a...
C'est pas une femme à poil, c'est un gamin.
Ah non,
c'est quoi?
Ok, mais lui le making of. Voilà, tout simplement parce que pour la première fois en couverture, il y a une photo de femme nue, s'il vous plaît, savonnée. Donc à ne surtout pas manquer.
D'accord.
Voilà pour le making of.
De dire le making of.
Voilà, qui est plutôt bien fichu. À noter donc que c'est Patrick Pinchard, l'ancien rédacteur en chef de Spirou, qui est le nouveau rédacteur en chef de Spirou. Je salue d'ailleurs Patrick
l'ancien rédacteur en chef de Spirou qui est le nouveau rédacteur en chef.
Exactement. Exactement, il avait été remplacé par Thierry Tinlot.
D'accord.
Et il est revenu, donc il a ramené aussi des classiques, puisque dedans on retrouve Gaston Lagaffe, Pauvre Lampille, les Schtroumpfs.
Ouais.
Mais surtout, donc, il y a les nouveaux Spirou, en commençant par celui qui est dessiné par Johan, l'auteur de la bande dessinée pour enfants Toto l'Ornithorynque chez Delcourt. mais aussi pour une bande dessinée trash au début des années 90 qu'il a fait pour un magazine anglais qui s'appelle Nini Renzi Good. Et c'est ce graphisme-là qu'il a voulu reprendre pour Spirou. Et ma foi, ça choque un peu, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisqu'il y a Franck Le Gall qui transforme Spirou en une espèce de Tintin. Et je vais pas vous dire tout ce qui arrive par la suite, mais en clair, ça va bastonner. On va pas arrêter d'avoir des nouveaux Spirou qui vont arriver. Faut dire aussi que Tom et Jean-Ry avaient mis un violent pied dans la porte en créant le petit Spirou, mais surtout donc avec Machine qui rêve, le dernier Spirou que même ils avaient fait, où ils avaient fait un graphisme qui était assez étonnant, ouais. Vraiment jeune adulte dans les gueules de Spirou et de Fantasio. Certains avaient plus ou moins apprécié. Moi j'avais trouvé que c'était sympa. Gazzotti, lui, abandonne Soda. Le dernier tome est sorti, mais propose sa nouvelle série. Ça s'appelle Seul. On en parle la semaine prochaine. On continue avec Fluide Glacial. Excusez-moi. On est mort de rire parce que la couverture, c'est un spécial Angoulême, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est-à-dire de loin, c'est-à-dire environ 1m50, on lit X, Gang Bang. Éjac facial, échangisme, et plein d'autres horreurs. Eh ben non, pas du tout. Et figurez-vous que le rédacteur en chef de Fluide Glacial, c'est Thierry Tinlot, l'ancien rédacteur en chef de Spirou. Exit donc Albert Algou. Albert Algou, dont pas mal de personnes, on dit en général des milieux
dans
bien informés.
Dans les milieux autorisés, il se murmure que...
Non, c'est en général, c'est, tu sais ce que l'on dit en politique, c'est un haut diplomate très haut placé disait que Albert Algou, le problème, c'est que il n'était que très peu présent donc à la rédaction de Fluide Glacial, malheureusement, et que certaines secrétaires s'étaient permis, par exemple, de dire à un dessinateur qui a claqué
chevelu
la porte, voilà. Ah non, mais tes planches, on va pas les publier. C'est très con, et voilà, c'est pour ça que y en a plein qui sont taillés, aussi bien Maester que Coyote. C'était un peu con, voilà. Donc Thierry Tinlot, ancien rédacteur chef de Spirou, se retrouve en Fluide Glacial avec un numéro où il y a même le directeur du festival de la bande dessinée, Jean-Marc Thévenet, dans le roman Photo, ouais. Et qui se ridiculise. Alors là, chapeau quand même, parce que Thévenet n'est pas le dernier dans les conneries, mais en tout cas, il s'y est donné à fond. Moi, j'ai trouvé que c'était assez amusant. Thomas, t'avais peut-être d'autres choses à rajouter là-dessus.
Moi, j'ai feuilleté et j'ai lu en profondeur les bandes dessinées, les petites doubles pages.
Il y a Sabrina qui est morte de rire.
Parce qu'elle vient de lire Le Petit Spirou.
Ça marche à tous les coups, tu vois. Vas-y, continue.
Je disais que j'avais lu les bandes dessinées qu'il y avait dans Fluide Glacial. Ça racontait un peu ce qui se passait au Festival d'Angoulême. Et pour l'avoir vécu, c'est assez drôle. Et même ceux qui n'ont pas vécu, les gags marchent. Moi, j'ai bien apprécié.
Parce qu'il faut dire quand même que quand on va à Angoulême, on a une carte de presse, on a une accréditation journaliste et même VIP, puisque on peut aller dans plein d'endroits et notamment dans un club nocturne où on retrouve les directeurs de collection, les éditeurs, les journalistes, les stars de la bande dessinée, mais personne n'est là pour dédicacer ou pour prendre des photos, etc.
Si.
Oui, toi t'es là pour les photos, mais je veux dire, c'est un truc, on vous révélera pas le lieu. On dit juste que des fois,
Voilà,
se négocient les droits de bouquins entre deux long drinks quand l'auteur a mis 4 ans pour essayer de trouver un éditeur de son côté. On en parlera ça aussi de la semaine prochaine. On continue avec Soleil qui revient dans le domaine de la revue. Oui, tu l'as sous la main. Avec Suprême Dimension, donc après l'aventure L'Enfance Mag, il relance un mensuel. 200 pages, assez costaud quand même, et avec un très beau papier là aussi. Là on est vraiment dans le haut de gamme, de même que Fluide depuis qu'ils sont passés à la couleur. Après l'aventure L'Enfance Mag, Soleil se lance dans une revue un peu plus généraliste. En couverture, Denis Bajram avec Universal War One, dont le dernier tome est en cours de prépublication et arrive en avril. Thomas, rassure-moi, on n'est pas encore dans un studio télé, mais moi j'ai une interview de Bajram, pratiquement pas diffusée, elle est sur une cassette bêta SP. sur une cassette professionnelle. Là, on est un peu mal. On n'a pas les lecteurs à ce format-là ici.
Non, pas encore. En tout cas.
On continue. Enfin, ça m'étonnerait qu'on puisse en payer un quand même ici. Avec K, la nouvelle série de Ramos, Sky Doll, dont le troisième tome vient de sortir en intégrale.
Superbe.
On en parlera là aussi.
Il y a le quatrième tome qui est attendu là. C'est le quatrième qui est attendu là.
Non, c'est le troisième.
Ah, c'est le troisième qui vient de sortir.
C'est le troisième, ouais.
D'accord.
C'est le troisième, ouais.
D'accord. Kokabura Universe, tome 6. Donc, Chris qui a laissé son univers justement à d'autres personnages, mais en tout cas, ça marche très très bien. Légende, troisième tome, c'est une série de Yves Wolf. Yves Wolf que l'on connaît pour un western spaghetti qui s'appelle Durango. Et de très bons papiers, dont celui sur le bilan de l'année par notre cher confrère, collègue et copain Didier Passamonique. Là aussi, putain, attends, j'ai placé Patrick Pinchard, Didier Passamonique. Il manque qui encore à placer? François Penaud et Nicolas Anspach.
Ouais.
D'accord, il y a tous. On a cité toute l'équipe là, hein. On vous laisse deviner sur le net. Ce sera très drôle. Ferraille, le numéro 27 vient de sortir. Je sais pas si on peut le qualifier trimestriel ou de quoi que ce soit. En tout cas, il est plus gros, plus long, plus ferme. Il s'agit bien évidemment de la publication Prozine de nos copains les requins marteaux. Un papier plus fin, mais du coup une sérieuse épaisseur puisque il fait 192 pages. C'est aussi gros, je dirais, qu'un Picsou magazine. Mais avec un nombre de dessinateurs assez effarant, un contenu extrêmement riche. Donc le trimestriel vient de sortir, il est sorti la semaine dernière en kiosque, hein. Là-dessus on ne vous ment absolument pas. À noter pas mal de dessinateurs en guest, dont s'il vous plaît Lewis Trondheim, grand prix cette année, en reportage BD sur la rédaction de Télérama. S'il vous plaît. Alors que Télérama, il vient de tirer à boulet rouge dans le 20 minutes de jeudi dernier, si je ne me trompe pas, mercredi ou jeudi dernier. Mais bon, la raison est là-dedans, je vous laisserai le découvrir. Enfin, c'est peut-être une des raisons justement pourquoi il tire à boulet rouge sur Télérama. Donc voilà, Ferraille, que dire? C'est que c'est les requins marteaux. La maison d'Albi ne fait pas que de la bande dessinée, mais elle fait aussi des performances assez vues, puisque en 2002 ils avaient fait le supermarché Ferraille, dont on vous passera peut-être la pub tout à l'heure. Il y a eu le musée Ferraille ensuite, mais à chaque fois ça a été présenté en off du festival de la ville d'Angoulême. Et cette année ils sont rentrés dans la programmation officielle du festival. Pour la plus grande gloire de Francky Ballonnet, entre quatre planches, un court coproduit avec le festival de 27 minutes en noir et blanc. Et on sait quand même bien. Thomas, tu peux broder pendant que j'ai cherché le stylo qui est tombé derrière.
Oui, il s'agit du court métrage qui avait été commandé par le festival d'Angoulême au Requin Marteau. Sauf que c'était un court métrage qui était censé parler du festival. Sauf que les Requins Marteaux se sont dit.
Non, c'était pas censé parler du festival. C'était censé être une animation dans le festival.
Oui, sauf que les Requins Marteaux, ils se sont dit, tiens, on va tenir notre rôle jusqu'au bout de poil à gratter. Et puis on va un peu parler des à côté de la bande dessinée, les idées qui se font piquer par d'autres mecs.
Toute ressemblance avec. Non, pardon, ok, on va continuer. Il est midi et 16 minutes sur la poubelle des radios. Vous écoutez Supplément Week-end sur Radio FMR. Du sport vient d'arriver et là il a ramené une partie de la sélection. Je pense que peut-être il va en parler. On va continuer. Sabrina, tu ouvres le feu avec Bang.
Oui, tout à fait, Bang.
La revue de Beaux-Arts Magazine dirigée par Vincent Bernière.
Donc c'est un trimestriel. Ça, ouais, c'est ça. Donc là, c'est un Bang spécial Hugo Pratt. Et spécial les aventures de Corto Mattes. Enfin, entre autres. Et donc, justement, c'est spécial où il raconte un peu la vie de dessinateur de 1927 à 95. Vous avez aussi de jolies planches de BD. Je les retrouve.
Pas original, pas complètement inédite.
Pas complètement inédite, mais quand même bien illustré et je les retrouve. Hein. D'accord.
Mais de toute façon, quand on connaît Hugo Pratt, c'est toujours un très bon niveau.
Oui, oui. De toute manière, oui. Oui, il n'y a, pas de souci.
Et quand on s'appelle Casterman, la société d'édition qui est derrière Bang en partie, et ben forcément, on a du matos, je veux dire, on a facilement les droits. Hein. On ne s'embête pas. En tout cas, c'est...
En tout cas, c'est superbement illustré. Vous avez une interview d'Hugo Pratt. Bon, qui date de 90.
Ah bah oui, oui, bah... il dit de façon assez drôle qu'il aime pas trop le hip-hop. C'est quoi, ou le rap? C'est.
J'ai pas encore, ouais. J'ai pas encore lu.
Ouais,
moi,
j'ai lu en diagonale et. Ouais, je préfère le jazz parce que bon, le rap c'est.
Ah oui,
what can one do? What can one do?
C'est un fan de jazz. Voilà. Et après, vous avez surtout ses influences artistiques. Surtout influencé par les BD américaines comme Bob Kane, etc. Ses influences au niveau de la peinture, la poésie, tout ceci. Et vous avez aussi Hugo Pratt vu par Tardi. Vous avez un joli dossier par Avalek.
Et bizarrement,
Burn, Blutch, Barberian.
Bizarrement, ça ne parle pas de Hugo Pratt le voyageur, alors que quand même.
Ah, si.
C'était.
Si.
Tu penses que c'est le soldat le plus jeune engagé dans la Seconde Guerre mondiale?
Oui, à 15
et tout
ans.
Ça, oui. Même, non, plus jeune que ça, à 12 ans.
En tout cas, moi j'avais vu 15 ans, moi. Mm. Bon, mais alors, entre 12 et 15
donc,
ans.
Donc voilà. En tout cas, un dossier non, un peu complet.
Non, c'est un dossier qui est très. On va dire, bon. Qui englobe un peu toute sa vie, son œuvre. Si vous voulez en savoir plus, ben vous avez toutes les revues. En fin de la revue, vous avez un guide complet de ses œuvres, de ses BD, plus les œuvres à côté qui ont été faites, comme. J'y vais arriver. Les femmes de Cortomatèse. Vous avez les périples imaginaires.
Oui.
Qui est un gros catalogue. De ses illustrations depuis 1945, puisqu'il a commencé à dessiner à partir de 1945. Vous avez toute sa vie, etc.
Et voilà. Il vaut cher ce magazine ?
Eh bien, j'essaie de chercher depuis tout à l'heure le.
À côté du code barre.
Non, en fait, c'était. Alors, ce Bang est un spécial. Comment dire ? Il a
c'est
été.
Hors série.
Oui, c'est un hors série. Et il était déjà emballé. Donc le prix était dessus, sur l'emballage.
Ah dommage, enfin bon.
Mais moi je pense que c'est aux environs de entre 5 et 6 euros.
Ouh, en général c'est plus proche de 15 euros hein, quand même avec...
Non.
Avec cela.
Non.
Bon.
Non, je t'assure.
Ok, Thomas, on s'offre une petite minute. Tranquille sur la musique de Timomas.
Oui, ensuite, puis après on va vous raconter tout ce qu'on a vécu au festival merveilleux d'Angoulême.
Voilà, ça va être l'arbre tiri lourde. A tout de suite. Non, faut peut-être vous expliquer pourquoi des fois on coupe un peu la prog comme ça, on se fait une petite pause. Tout simplement, on se fait des petites vacheries et des fois des très grosses. Du sport, il y a un colis qui est arrivé pour toi là. Tu as vu passer là ?
C'est le gros carton qui était à ta place quand t'es arrivé.
Donc voilà, et nous on est en train de se partager les bouquins et ah, qu'est-ce qu'on t'a trouvé à Angoulême ? Non, le reste c'est à propos de ta rubrique parce que tu me les as demandé hier par téléphone, donc je te les ai amenés, voilà.
Donc il faut expliquer ce que c'est quand même.
Bah oui, alors, on fait de la radio là.
Alors le bouquin qui est revenu exprès d'Angoulême pour du sport, qu'est-ce que c'est ?
Attends.
C'est le bouquin rouge.
Alors c'est un bouquin qui est sorti il y a 3-4 ans je crois.
Non, il y a 2 ans, non, il y a 2 ans.
Ouais, 2 ans, enfin tu vois, il y a 2004, imprimé en 2004, ouais, c'est ça. L'initiation à l'ontologie de Jean-Claude Van Damme. Le concept aware, la pensée en mouvement. Par Monsieur Van der Meulen, hein, qui a fait un bouquin vraiment très correct. Quoi.
Et qui avait déjà sorti un bouquin, c'était la littérature pour tous, les grands classiques de la littérature expliqués aux jeunes de banlieue, et c'est aux jeunesse défavorisée, ouvrière, et c'était assez rigolote.
Mais attention, parce que bon, bah, c'est pas un espèce de condensé comme ça de maximes, de répliques qui ont été repiquées à gauche et à droite, c'est carrément un bouquin qui... a l'air vachement très sérieux, hein, c'est-à-dire une étude forte, exhaustive, hein, de la pensée vandamienne, avec bien entendu beaucoup, beaucoup d'exemples.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
C'est l'occasion de patienter jusqu'à ce que le prochain Astérix sorte en salle, car rappelons-le, Jean-Claude Van Damme tiendra un rôle dans le prochain Astérix, Astérix aux Jeux Olympiques, qui jouera le rôle de Corne de Russe, l'athlète romain. Qui a participé aux Jeux Olympiques. Je pense que ça va le faire, surtout en Alain Delon, en César, en face de lui. Ça devrait le faire.
Moi, je reste dubitatif. On y va pour le débrief. Mais à Angoulême, si vous avez suivi Radio FMR les après-midi de mercredi à vendredi, vous avez entendu notre périple qu'on a enregistré, qu'on voulait passer dans l'émission de samedi dernier. Et faute de bande passante suffisante et de machine pour retravailler le son, eh ben, on n'a pas pu, mais en tout cas, eh ben, vous nous avez entendu expliquer que Angoulême, c'est une ville qui fait 140 000 habitants, que le festival, c'est 200 000 personnes qui viennent de l'extérieur d'Angoulême et qui viennent exprès, et que donc, eh ben, voilà quoi, c'est littéralement énorme pour une ville de cette taille-là, c'est-à-dire que c'est le moment où la ville vit vraiment. Angoulême, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les nomades.
Soirées nomades.
Chansons nomades, pardon. C'est un festival qui a lieu début juin de musique, de world music. En septembre, eh bien, il y a le rallye des remparts où c'est une concentration de voitures anciennes. Mais surtout, donc, il y a le festival d'Angoulême qui rassemble un monde monstrueux. Sauf que cette année, l'an dernier, c'était la grève des trains qui avait mis pas mal de bazar, surtout pour l'arrivée, eh ben, des auteurs. Ce qui fait qu'on avait pas mal galéré. Et cette année, on s'est dit, bon, allez, faisons le foin du bazar. On va faire un minimum d'interviews. On va surtout profiter. Et du coup, eh ben, on en a bien profité. Et surtout de la neige.
Voilà, il y a eu 2 hic cette année, il y a eu les conditions météorologiques, puisque la neige a fait qu'il y avait moitié moins de fréquentation le samedi de cette année que l'année dernière, et surtout l'autre hic, c'est que il y avait les travaux sur les bulles du Champ de Mars, et donc du coup les bulles n'étaient pas là, il y avait un trou à la place, et les...
Voilà, les Champs de Mars, c'est une immense place qui fait 4 hectares, qui en général sert de parking, de place des marchés, et tout ça, et là, ben du coup, c'était complètement éclaté.
Ce qui fait que
les bulles étaient plus petites.
Voilà, d'habitude il y a 2 gigantesques bulles. C'est soit la bulle nord, soit la bulle sud, avec tous les éditeurs qui sont regroupés au même endroit. Et là, les éditeurs étaient disséminés à travers la ville d'Angoulême, sachant que la ville est une ville qui monte et qui descend.
Oui, c'est en haut d'une colline. Hein. C'est Angoulême, c'est une ancienne place forte, et donc, voilà, jeu de piste en perspective. On a, ouais, allez, on va le dire, hein, on a bien rigolé.
Ah bah oui, de toute façon, si il faut y aller pour ça. Hein. Voilà. Non, c'était malgré tout assez intéressant, et puis voilà, les éditeurs étaient quand même bien outils, les bulles ont permis justement de faire la distinction, il y avait eu des espaces de BD asiatiques, mais ça on y reviendra tout à l'heure, etc. Donc c'était assez bien fichu quand même.
Il est midi 28 sur la poubelle des radios, tout de suite, les publicités.
C'est midi, la journée va commencer. Autant bien démarrer avec un cacao Jim Turbo. 3,76€ la boîte de 500 grammes. Un cacao Jim Turbo pour bien démarrer. Cacao Jim Turbo!
Acme, fournisseur officiel de graines pour Bip Bip auprès de Monsieur le Coyote, se changeront de l'ambiance le jeudi 9 février à la SDF de Ramonesville. Fleuron, néo-métal de la néo-scène néo-rock, Acme risque de déclencher en un soir sur ta peau d'ado une poussée d'autant de petits boutons d'acmé que de touches sur le clavier de ton ordinateur. Alors Jones, tu es prévenu. Vas en paix, le jeudi 9 février à la SDF de Ramonesville. Il y aura là-bas Lazy et Acme.
Tension, stress. Vite, Subutex-Mex. Subutex-Mex, ça fait du bien par sa pex. 200€ les 500 grammes. Subutex-Mex, ça décolle.
Pour le plaisir, évidemment, on vous a passé deux pubs de supermarché Ferraille. Et puis, on s'est bien éclaté aussi à voir leur film. Mais il n'y a pas que ça à propos donc du festival d'Angoulême. On vous a parlé de la fréquentation. On devrait aussi parler de ceux qui font le festival. Et cette année, une très 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 forte présence internationale. Toi Thomas, ça t'a pas vraiment choqué parce que t'y es pas venu si souvent que ça, hein, mais là cette année, c'est vrai que du fait que ça soit beaucoup plus ramassé, il y avait, je vais dire, une présence de la bande dessinée internationale qui était plus importante. Il y avait Jim Lee, par exemple.
Mais il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait Mac Mignola, s'il vous plaît, il y avait... Quoi?
Non, s'il vous plaît, non.
Bah ça, c'était les auteurs étrangers. On a eu des auteurs, beaucoup d'auteurs asiatiques, mais aussi on a eu de nos célébrités nationales. Il y avait Enki Bilal, Moebius.
Ouais, mais ça, les grands prix, ils viennent tous les ans pour voter, puisque il faut le collège des grands prix pour désigner le nouveau. Donc voilà. C'est comme ça.
Mais tant qu'on est aux célébrités, il y en avait d'autres d'un autre genre. Hein. Bon, il y avait Jean-Jacques Benex qui faisait la liaison entre le cinéma et la bande dessinée.
On en aussi... parlera tout à l'heure, justement.
Voilà. Il y avait aussi Patrick Bruel.
Pardon.
Voilà.
Ça c'est l'expérience qui parle.
Il y avait aussi
Mimi. Oh, ça va. Oh.
Mimi Mati, évidemment.
Que des noms en I.
Bon, il n'y avait pas que ça, heureusement. Mais ça a toujours fait partie, je vais dire, des célébrités. Plus étonnant, il y avait les politiques. Il y avait Yves Frémion qui, en tant que rédacteur de Flic Glacial, était là pour la pêche aux voix. D'ailleurs, tous les ans, le Parti des Verts remet le prix Tournesol à une bande dessinée. Là, c'était une bande dessinée amateur à propos du scandale de l'amiante. Mais Yves Frémion était là, tout simplement parce qu'il a besoin de 100 voix de militants des Verts à jour de leur cotisation pour tout simplement de briguer la candidature en 2007. Et oui, il y a aussi un peu de politique. Il y avait aussi la présidente de la région. C'est une socialiste, j'ai oublié son terme, mais son mari me fait penser à l'autre pays du fromage. Et à côté de cela, il y avait plein d'autres choses. Enfin, en clair, il y avait du monde. Il y avait des journalistes. Et moi, je voudrais saluer Salvatore Oliva et Giorgio Zambotto de l'excellent Fumo di Cina, qui est une revue grand format italienne, un mensuel très complet sur la bande dessinée internationale et qui est plutôt bien fichu. Thomas, je te le prête. Si tout comme moi, tu ne sais pas lire l'italien, c'est très intéressant. Mais en tout cas, non, c'est non clairement. Ils ont de très bons dossiers, assez bien couverts là-dessus. Il y avait bien évidemment donc tous les pays invités. On en parlera tout à l'heure. Et tels que la Chine et la Finlande. La Finlande qui faisait une exposition sur les auteurs, les nouveaux auteurs finlandais. Même s'ils ont un peu de mal hein, quand même à se faire éditer dans leur propre pays, c'est de l'auto-édition principalement. Et à côté de cela, eh ben, il y avait la Chine, après le Japon, après la Corée du Sud, et une participation épisodique de Hong Kong. Eh ben, donc la Chine communiste, s'il vous plaît, la République populaire était là avec des auteurs qui nous ont bien retournés.
Oui, oui, que ce soit Benjamin, Ni Chongrui, donc dont on parlera tout à l'heure aux éditions Jiaopan,
c'était un beau
florilège de talents venant de là-bas, et c'est toujours sympa, et puis toujours les inévitables coréens hein, qui sont toujours là avec un espace réservé.
Et ma foi, ils mettent toujours autant d'argent, le COCA, le syndicat, enfin le syndicat d'initiative de l'export de la bande dessinée locale, qui veut montrer que justement la Corée, ça n'est pas que un pays sous-traitant des dessins animés japonais où ils font des intervalles. Non, loin de là, ils ont quand même de la création, ils font aussi pas mal de jeux vidéo et plein de choses. Ah bah oui, après tout, pourquoi pas. On va passer, puisque qui dit festival
dit palmarès.
Et voilà. Et ben donc ma foi. Oui, vas-y.
Je crois que ça s'appelle les Alphards, c'est ça, non?
Non, justement, ils ont abandonné le nom.
Ça s'appelle plus comme ça.
Ça s'appelle maintenant les Prix. C'est un peu idiot. On applaudit.
C'était pas mal, les Alphards, quoi. Je trouvais que c'était bien.
Oh, ouais. Mais avant ça,
c'était vraiment symbolique de la BD, quoi.
Voilà, mais suite à un petit conflit, ce qui paraît, avec les ayants droit, avec surtout Nick Rodwell, de la Fondation Molinsart, qui donc gère l'image de Tintin. Gère l'image de Tintin, et ben voilà. Et avant, ça s'appelait les Alfred, d'ailleurs, le personnage qui est de.
Les Alfred, c'est à ça que je pensais en fait au départ, hein, personnage Alfred.
De Saint-Augan, qui était. Non, pas de Saint-Augan, je dis une bêtise. Enfin bon, voilà. Et cette année, et ben il y a deux bouquins qui sont sortis du lot.
Qui sont le bouquin de Étienne Davodeau, Les Mauvaises Gens.
Dont on va parler tout à l'heure. Qui a remporté, avant le festival, il a remporté le prix de la critique de la CBD, pour lequel j'ai voté. Il y a eu le prix des libraires, qui n'est pas immérité. Il a eu le prix du public, qui cette année, c'était pas un vote populaire, mais c'était un vote d'un jury choisi parmi les publics. Ouais. Et il a eu le prix du meilleur scénario, si je me trompe.
Oui, c'est ça, oui. Les Mauvais Gens, le prix du meilleur scénario, ouais. Exactement.
Donc voilà. À côté de cela, c'est un Italien qui s'est bien fait remarquer avec JP.
Note pour une histoire de guerre.
Voilà, et qui a eu quand même pas mal de prix, si tu peux le citer, le temps que je change.
Note pour une histoire de guerre, donc il a eu évidemment le prix du meilleur album, et il a eu aussi le prix René Goscinny.
Oui, le prix du jeune scénariste, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il ait fait plus de 3 bouquins.
Voilà.
À noter qu'il y avait le journal de Frantico, le blog de Frantico qui était censé. Il l'a lâché. voilà. C'est la grosse rumeur en ce moment, c'est Trondheim a-t-il fait le blog de Frantico. Voilà. On s'en fout. À côté de cela, si tu peux te donner la suite, palmarès.
Black Sad, hein. Tome 3, prix de la série.
Alors que ce sont des albums indépendants.
Ouais.
C'est un peu étonnant, mais après tout, pourquoi pas.
Le prix du dessin est allé au Vol du Corbeau. C'est le tome 2 de Jean-Pierre Gibra, chez Dupuis.
Très très bon bouquin, d'ailleurs. Et surtout, c'est une suite après un bail. Il n'avait pas mis à jour depuis un bail son bouquin, pardon.
Le prix du meilleur album est allé au tome 1 de Aya de Youpougon, de Clément Aubéry et Marguerite Aboué. Mmh. Et prix du patrimoine à Loca volume 1 de la série Love and Rockets de Jaime Hernandez.
Les prix jeunesse hein.
Prix jeunesse Yakari, c'est le tome 31, Yakari et les Zappaloussas de Derib et Job. Sillage, le tome 8.
Attends, c'est quel? Parce qu'il y a deux tranches
d'âge.
Ah oui,
alors, pardon, prix jeunesse 7-8 ans, c'était ça. Il y a
voilà,
Gary,
donc
le...
c'est un jury de gamins de 7-8 ans et le.
Et le jury de, des gamins de 9 à 12 ans.
Il y a Gary, c'est le petit indien là.
Oui, oui, ça, tout à fait. Ouais. De Derib, ouais.
Voilà.
Et à le... noter que le jury.
Le cheval tonnerre.
Le jury jeunesse est sous la direction de Jean Soulet.
Ah, d'accord.
Donc voilà. Et donc le 9-12 ans.
Et 9-12 ans est allé au tome 8 de Sillage, Nature humaine de Bûcher et Morvan.
Ce qui est plutôt étonnant, puisqu'en général, Sillage, eh ben, c'est quand même de la fille un peu déshabillée. Je vais pas dire qu'il y a une alerte Spice Girl en général chaque fois qu'on en parle, mais pas loin. On s'en tape. Donc
les gosses ils sont précoces hein, en ce moment.
Ah oui, mais bon, mais ceci dit, c'est un très très beau bouquin, c'est magnifique. Et enfin, c'est une très bonne série, voilà.
Et voilà, et une BD qu'on a chroniquée ici qui s'appelle L'aigle sans orteil a reçu quant à lui le grand prix RTL.
Il n'a pas reçu que le grand prix RTL, il a eu le prix du jury œcuménique. C'est vrai que le Christian Lax là-dessus l'avait bien mérité. Et puis c'est à peu près tout. Ouais. Je pense que c'est tout. Ça valait le coup, oui, quand même. Ça valait le coup de faire la pub pour aux collègues de la plus grande radio de France et du Luxembourg. D'un autre côté, à côté de cela, eh ben, le Grand Prix est allé à
Lewis Trondheim.
Donc voilà, le dessinateur prolifique, créateur avec trois copains d'un petit label qui s'appelle l'association et qui maintenant ne mérite plus vraiment ce label. Lewis Trondheim a créé des personnages de Lapino, il a créé la série Donjon, il a créé il a pas arrêté hein. En fait, en 95, dans une interview qu'on a diffusée ici sur Radio FMR, il se disait lui-même comme étant un flemmard un peu. Mais c'est un faux flemmard, c'est un mec qui n'arrête pas de sortir plein de bouquins. Il est aussi scénariste à côté. Et c'est un auteur plutôt complet.
Et directeur de la collection Shampoing chez Delcourt également.
Oui, exact, oui, puisque c'est quelqu'un qui bouge pas mal, qui se démène. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas tirer les vers du nez. Il aime pas beaucoup les journalistes en général, puisque cette année, eh ben, il a pour le point presse, il a dit que des conneries. Il a dit que, en accord avec Michel-Édouard Leclerc, il trouvait ridicule de faire un prix du meilleur scénario et du meilleur dessin. Qu'il fallait faire le prix de la meilleure rencontre entre un scénariste et un dessinateur à la croisée des chemins, un prix Carrefour. Qu'il fallait faire un prix des dessinateurs maudits de la bande dessinée qui dessinent depuis des années et qu'on n'entend plus parler.
Le prix Mammouth.
Voilà, le prix du dessinateur au succès le plus insolent alors qu'il le mériterait pas. Et là,
casino.
Donc on a bien rigolé, mais bien évidemment, c'est mi-chic mi-raisin. Mais en tout cas, ça nous promet quelque chose qui va beaucoup plus bouger qu'avec Volinsky comme président. Peut-être bouger autant qu'avec Zepp ou Book. On n'en sait rien. C'est vrai que Zepp s'était pas mal donné à fond. On verra ce que ça va donner. En tout cas, il y aura pas mal de choses qui vont monter au fur et à mesure. Et bien évidemment, on en reparlera d'ici là. Et l'idée stupide de l'année, c'est d'avoir décidé que le Grand Prix serait annoncé le dimanche à 13h. Il faut vous expliquer que le dimanche, il y a pas mal de monde qui se taille. Et en premier lieu, l'intéressé qu'il a appris dans le TGV qu'il ramenait vers Montpellier. Donc il était entre Angoulême et Bordeaux. Et non, non, faut que tu reviennes, t'as un prix. Donc là, c'était merde. Je déteste ses honneurs. Et donc, il a dû revenir. Et ça tombe bien, puisque le point presse était devant... Combien de journalistes
hein? Ah, il n'y avait pas beaucoup, hein, par rapport à ce qu'il y avait.
Ouais, on était 12, hein, pas plus. C'était un peu idiot. C'était même vraiment dommage. Enfin, là, c'est l'organisation du festival qui est à revoir. À noter que donc les prix se cooptent entre eux et que ça, et ben, ça risque de changer. C'est une, on va peut-être changer le mode de désignation du Grand Prix puisque il y a eu des histoires comme quoi, oui, c'est Magouille et compagnie. C'est toujours entre les anciens de pilotes et les anciens de métal hurlant. Et oh, faut arrêter un peu les délires de ce côté-là. Peut-être, on
c'est
ira.
C'est la conspiration, le complot.
Mais
ils sont partout.
Non, ils ont pas complètement tort. Non mais c'est pas complètement faux puisque
ils tiennent les manettes.
Non, c'est la même chose que le prix Goncourt. C'est-à-dire que donc effectivement il y a deux écuries, que le Grand Prix en général c'est un homme, c'est un ancien de la bande dessinée franco-belge des grandes revues des années 70-80, et que en plus il est bien souvent français. Il est rarement belge et encore plus rarement italien ou allemand ou américain. Je crois qu'il y a eu que 3 étrangers dans le lot. 4 si on compte Enki Bilal comme étranger. Enfin, c'est vous dire quoi. Et encore. Enfin. Voilà quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. h 42, c'est supplément week-end. Thomas, je crains que l'on débordasse. Alors on va attaquer de suite les expos, puisque le festival d'Angoulême, ce qui a fait la particularité du festival, c'était la création d'expos. Donc qu'est-ce qu'il y avait cette année?
Et il y avait une exposition qui présentait les différentes étapes pour arriver à la création d'un film d'animation. Du storyboard jusqu'au premier rough, les premiers essais animés, et ça s'appelait l'exposition Peur du Noir. Et cette exposition permettait de faire un petit peu monter le buzz autour d'un film de recueil de courts-métrages d'animation en noir et blanc
qui est annoncé pour cet hiver, voilà.
Pour cet hiver, réunis autour avec des dessinateurs, justement là, pour la majorité d'entre eux, de bandes dessinées, des illustrateurs qui ne s'étaient jamais essayés au film d'animation, et parrainés par le directeur artistique Étienne Robial,
Directeur artistique de quoi, on va expliquer après, mais d'abord sa grande carrière. Il a monté la librairie Futuropolis, les éditions Futuropolis, il a fait la charte graphique de Metal Hurlant, et après il s'est fait une réputation dans la télévision, du sport, si je te dis Canal+,
si je te dis M6, les espèces de trucs, les carrés, les triangles et tout ça,
voilà.
C'est lui.
Canal+, M6, donc ITV, Paris Cochet, CanalSat, il a fait France Télévisions aussi à une époque, bref, vraiment, on voit son image partout, vous le connaissez pas.
Voilà, et il chapeautait justement une petite dizaine environ d'illustrateurs pour faire chacun leur premier pas dans l'univers de l'animation. Ces illustrateurs qui sont Blutch, il y avait Charles Burns, Marie Caillou, Pierre Dicciuilo, Dupuy Berberian, Jerry Kramski, Lorenzo Mattotti, Richard Maguire, Michel Pirus et Romain Slocombe, qui étaient quasiment tous là. Il y en avait deux qui manquaient à l'appel.
Non, il y en avait qu'un, je crois.
Hein?
Je crois que c'était
c'était Kramski, je crois, qui n'était pas là.
Ouais, mais en tout cas, déjà vous dire que tout ce monde qu'il y a, ça laisse augurer du très bon. Et ben du peu qu'on a vu, puisqu'il y avait que 2 minutes qui étaient finalisées, 2-3 minutes de film, quand même on s'est pris une claque.
Ah oui, ça s'annonce comme du très lourd. Hein.
C'est très beau parce que Dupuy Berberian, c'est le créateur de Monsieur Jean et du journal d'Henriette, Lorenzo Mattotti, surtout un dessinateur de presse, un illustrateur que l'on retrouve dans le Courrier International, dans Le Monde, dans le New Yorker. Et plein de revues. Charles Burns, c'est le créateur de Black Hole que l'on voit chez Delcourt. Et vraiment, on ressent toutes leurs pattes graphiques dans l'animation. C'est très, 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 très bien rendu. Et on attend avec beaucoup d'impatience. C'est une exposition qui restera au CNBDI à Angoulême jusqu'au 3 septembre. Donc c'est peut-être l'occasion d'aller le voir. Allez-y. Et peut-être vous aurez en plus au fur et à mesure de la production des éléments qui vont changer. Pense que
au fur et à mesure de l'état d'avancée des travaux.
Donc voilà, en tout cas, nous on a bien craqué. Il n'y avait pas que ça pour le storyboard.
Non, il y avait une exposition qui était au Conseil Général. Storyboard qui présentait justement qu'est-ce que c'est le storyboard, à quoi ça sert. Et il y avait un jury qui décernait le prix du storyboard pour récompenser justement les jeunes talents, les jeunes dessinateurs qui voulaient se mettre au storyboard ou se mettre au film d'animation via le storyboard. Et ce prix était décerné par Jean-Jacques Benex.
s'il vous plaît.
À noter que dans, pendant cette expo, il y avait des essais.
Auteur d'un très bon storyboard, mais pas d'une très bonne bande dessinée, qui s'appelle donc L'Affaire du siècle.
Voilà.
Voilà.
Dans le tome 2 vient de paraître d'ailleurs. Et justement, pendant cette exposition, il y avait parce que si vous êtes accro aux DVD, aux bonus DVD, etc., justement dans les éditions collector, il y a toujours le film en version storyboard. C'est-à-dire, ce sont des storyboards en noir et blanc qui défilent sur l'écran avec la bande-son et tout. Et là, c'était le montage des storyboards du film L'île de Blackmore de Laghioni. Et justement, c'était assez pertinent comme choix. Toujours est-il que Benex, ça restait un grand moment de. Le mec, il est accessible, il est super abordable. On peut discuter de tout avec lui. C'est quelqu'un.
La plupart du temps, d'ailleurs, dans la bande dessinée, les gens sont abordables. Il faut pas se leurrer.
Oui, mais bon,
à des musiciens ou à la plupart des cinéastes.
Mais bon, il a eu à répondre à quelques questions personnelles et justement, il a balancé quelques infos justement que d'autres n'auraient pas balancé, effectivement. Voilà.
Mais cela ne nous regarde pas. On continue à côté, puisque le peur du noir, on a oublié de signaler, c'est des entreprises qui sont à Angoulême qui le font. Il y a pas mal d'entreprises d'animation. Il y a un pôle de l'image. Si vous connaissez, par exemple, Totally Spice, si vous voyez Funky Cops ou Lucky Luke, à la fin, vous voyez le logo de la région Poitou-Charentes et le logo de Magellis. Magellis, donc, c'est un groupement d'intérêt économique entre plusieurs entreprises. Et dans ces entreprises-là, il y a une entreprise un peu particulière parce que elle fait acte de fondation, c'est le cas de le dire. Elle fait acte de mémoire de la bande dessinée depuis 1997. Il s'agit de Coconino World, sous la direction de Thierry Groston, d'un côté, publie des nouveaux dessinateurs en ligne, c'est gratuit, allez-y, allez regarder, il y en a pour des gigas et des gigas de BD à découvrir sur le site coconino-world.com. Et à côté, il y a des bandes dessinées qu'ils restaurent, des bandes dessinées très vieilles qui ont pratiquement un siècle pour la plupart, voire pour certaines plus récentes. Et tout ça, cela donne, comme tu disais Thomas, l'un des plus beaux sites du monde.
Oui, parce qu'il faut savoir que les pages du site sont des images fixes. Ce ne sont pas des liens sur lesquels on peut cliquer. Et ça respecte justement la mise en page et voilà.
En tout cas, il n'y a pas que ça. Coconino World qu'on a en interview.
Il n'y a pas que ça, oui, justement. On les a interviewés et qu'on diffusera très prochainement. En fait.
Voilà, il y a aussi Choco Creed, dont on va parler tout à l'heure, qu'on a eu en interview. Et Dominique Véré, qui est un allumé qui fait ce que l'esprit manga soit en France. On en reparlera prochainement. Le président du festival avait sa propre interview. Volinsky, si vous connaissez son œuvre, il y avait ses premiers dessins. Et après, c'était que des trucs qui étaient déjà sortis chez Albin Michel. J'ai été déçu. Mais à côté, il nous a fait découvrir un dessinateur que lui-même a fait découvrir en France, c'est Butzeli, qui a disparu récemment. Et là, Butzeli, graphiquement, c'est assez étonnant. Il y a vraiment un univers...
Guido.
Guido, oui.
Guido.
Et oui, si. Et là-dessus, je crois que l'exposition aussi reste jusqu'à début avril à Angoulême. Et vraiment, c'était très très beau et assez agréable.
Ouais, c'était le mec qui avait sorti cette bande dessinée absolument excellente. Ça s'appelait HP, c'est ça hein.
Je crois, ouais.
Hein, dans Charlie Mensuel, il y a très longtemps.
Tout à fait, ouais.
HP, ouais. C'était
HP
génial.
Horsepower.
Non. Ça n'avait pas trop de rapport avec ça, justement. Quoi.
Enfin,
c'est loin, hein, c'est très très loin ça.
Là, c'est un dessinateur un peu disparu que Volinsky avait fait découvrir en France quand il était encore vivant, dessinateur italien. Et maintenant, il voulait essayer de faire redécouvrir. Et là, on a vu ses travaux originaux de près. Et il n'y a pas d'autre terme. À côté de cela, dans les autres expositions, il y avait Capsule Cosmique, la revue jeunesse de Milan Édition qui avait fait un espace pour les gamins. Très très beau. Et Choco Creed. Alors Choco Creed, on vous raconte ce que c'est, Thomas.
Choco Creed, c'est un collectif qui fait des...
Angoumoisins.
Voilà, Angoumoisins. Alors attends, je vais te sortir les bandes dessinées.
Youbla ! C'est tous les ans, depuis 5 ans, ils sortent un format carré, 30 sur 30, assez épais, avec un papier de super bonne qualité et des dessins. Mais alors, on est baba, quoi.
Voilà, qu'on peut peut-être qualifier pour le grand public de on va dire, dessin un peu mignon, kawaii.
Naïf. Voilà, ça naïf. S'adresse aux gamins au début, et au fur et à mesure, c'est de plus en plus vers les adultes. Ils vous l'expliqueront dans une interview qu'on passera quand on voudra, quand on pourra. Restez à l'antenne, restez à l'écoute, et abonnez-vous au site, sur le site internet de l'émission daskritch.net. Et vraiment, moi, chaque année, c'est un plaisir de retrouver, mais c'est la cinquième année qu'ils font ça. Or, ils avaient dit, on arrête ça au bout de 5 ans. On ne sait pas ce que ça va devenir. En tout cas, le cinquième Chococuid est basé autour du mystère.
Le mystère, après la nature, après d'autres thèmes à chaque fois.
Il y a eu la fête foraine, il y a eu l'horreur. Ben là, voilà quoi, c'est un bouquin.
Très beau.
Ah, pff,
et
voilà.
La qualité là, du papier, c'est extraordinaire quoi. C'est glacé, c'est.
Enfin, oui, on est littéralement scotché par la qualité de production et voilà, Chococuid fait vraiment du bon boulot, un boulot d'artisanat, un boulot qui laisse gaga et surtout c'est le côté sucré fait main qui est très agréable, vraiment on retombe en enfance et cette année ils ont fait très fort, ils ont sorti ça. Alors je sais pas si on voit très bien à l'image, mais pour ceux qui n'ont pas la couleur,
ouais.
Donc on va expliquer, c'est une collection de chocolat.
Disport, tu m'ouvres ça. Bon, attends.
Avec les emballages sont différents, puisqu'il y a du chocolat au lait, chocolat aux pépites, chocolat noir, chocolat blanc. Voilà, il y a chaque fois.
Et c'est celui-là, hein, c'est menthe.
C'est celui-là, c'est le chocolat au lait avec les graines noisettes, je crois, dedans.
Voilà, et ils ont repris en fait les couvertures qu'ils ont fait des différents Chococuid. À travers leur courte histoire, donc.
Allez, donne, je vais te l'ouvrir, moi.
Ah ouais, mais moi je vais essayer de pas abîmer le.
Bah oui, mais moi je l'ai fait, j'en ai déjà bouffé à la maison, attends, donne.
Bon, d'accord. Et vous me bouffez pas tout, je l'ai pas encore goûté, hein. C'était un artisan. Ils ont demandé à un artisan de faire des tablettes de chocolat, ils les ont donc emballées à leur manière. Et même les textes qu'ils ont mis derrière est très rigolo. Ah! Thomas, il me l'a déchiré le papier. C'est un lion qui joue à cache-cache avec des animaux.
Ah, mais tu m'avais passé le poster.
Ouais, 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 tout à fait. Il y en avait plein d'autres. Ils avaient fait chocolat noir, chocolat blanc, au riz et tout.
T'en veux du sport?
Ah, bien sûr.
C'est un antidépresseur. Enfin, à mon avis, on en a pas trop besoin là, mais bon, et heureusement, c'est pas uniquement sur consultation médicale. Chococuid, vous pouvez le retrouver en librairie. Le tome 5 est disponible via le comptoir des indépendants.
Et
ouais, chez les libraires indépendants, chez libraires spécialisés de bande dessinée, donc que ça soit Terre de légende, album, arcade ou excusez-moi, atmosphère, et ben voilà, donc ils l'ont. Mmh. Oh putain, en plus c'est bon.
Il est bon, hein.
Moi, je vais pas te le, on va pas te le taxer avec Sabrina puisqu'on a déjà bouffé chez nous, donc on va te laisser de le garder pour
j'aurais dû les dévaliser, moi. Oh, mais il est vraiment délicieux. On continue avec le citron.
Combien la tablette?
Combien, c'était pas cher.
Combien la tablette? Alors attends, est-ce que le prix est toujours? Je m'en rappelle plus, c'était pas trop cher, hein.
Non, je crois que c'était à 2,50€, un truc comme
ça.
Ouais,
ça va.
Ouais, pour un chocolat artisanal. Absolument pas, allez. Attendez, on se laisse déglutir. Alors, hein. On met le fond.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme expo? On avait l'exposition à la Maison des Auteurs, au bouquin Fil du Nil.
Puisque donc Angoulême, c'est un véritable pôle de l'image. Il y a aussi une école de l'image, même plusieurs écoles supérieures. École supérieure autour la 3D, l'animation, la bande dessinée, l'illustration. Et donc, l'école de l'image sort tous les ans un catalogue qui est derrière d'ailleurs, hein, Thomas. Il s'agit de Au fil du Nil. Non, il est derrière toi. Dans le tas de bouquins. Excusez-le, hein, faut tout lui expliquer. Au fil du Nil, c'est un annuel qui sort depuis un sacré bail, qui a même été édité il y a un moment par Guy Delcourt, puisque ça lui a permis de découvrir de jeunes talents. Et donc, le Au fil du Nil numéro 16 vient de sortir. Sous le nom de Réservoir, et comme chaque année, il s'agit de travail des étudiants de l'école supérieure de l'image d'Angoulême en bande dessinée. Et comme chaque année, certains noms seront appelés à devenir très grands. ne serait-ce que par les talents comme leurs prédécesseurs. On y note aussi une présence chinoise qui était le pays invité du FIBD, qui est assez importante, parce que je crois qu'il y a des étudiants qui sont allés en Chine justement, qui ont fait un petit reportage. C'est un bouquin, alors chaque année ils changent le format, là c'est en format comics, mais c'est plutôt agréable à lire. Et donc on a vu les planches
exposées,
voilà, en vrai, voilà. Et on pouvait repartir avec ce qu'on pourrait qualifier de catalogue de l'exposition, mais en tout cas, ben la présentation de la promo 2005-2006 qui risque cette année, eh ben, de se montrer plus qu'intéressant. On verra ça. Comme d'habitude, Au fil du Nil, c'est édité par l'École supérieure de l'image, et donc le 16e tome s'appelle Réservoir. Et à côté de cela, il y a, en dehors du cursus universitaire, eh ben, il y avait l'exposition Jeune Talent. Thomas ?
Oui, celui avec l'arbre au beau milieu de la bulle.
Oui, oui, il y avait des navices, il y avait les navices de sillage, vous voyez, il y en avait 4, je crois, qui ont été grimées. Elles auraient dû faire le cosplay, ça aurait été amusant, tiens. Mais bon, ça... On vous réexpliquera pourquoi. Chaque année, eh ben, il s'agit de jeunes auteurs, soit qui viennent des lycées, soit qui viennent en candidat libre, soit qui viennent de collège, qui présentent 3-4 planches autour d'un thème particulier et qui sont départagées par un jury mené par Jean Solé. Et donc, des fois, eh ben, il y a vraiment de très beaux bouquins qui en sortent. Donc, ça tombe très, 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 très bien. On continue toujours notre visite virtuelle d'Angoulême avec le cosplay. Et le cosplay a eu lieu samedi, jour habituel où il y a un max de monde, où en général on tente de se réfugier dans un endroit clos où on est bien assis et où c'est pas trop enfumé. Et là, et voilà. cette année,
ben, ça a pas loupé, c'était complet.
Mais sauf que comme il y avait de la neige dehors, c'était complet dans le théâtre, donc tout le monde s'est réfugié, etc. Et le cosplay était pas trop déshabillé cette année, je ne sais pas pourquoi.
Ben, il était pas trop déshabillé, et puis surtout, voilà, il y avait pas assez de monde dans le cosplay pour faire du cosplay déshabillé, surtout. Puisqu'il y avait,
il y a pas beaucoup de monde, hein. C'est la troisième fois qu'ils font un cosplay. En général, c'est pas très, très complet.
Il y avait 4 participants en solo, plus un groupe de 3 ninjas. Donc, on va citer les références. Il y avait 2 soldats de Fullmetal Alchemist. Enfin, il y avait
Donc, quand même, un mec qui était salarié par les éditions Kurogawa, éditeur en France de Fullmetal Alchemist. On lui a prêté la tenue.
Pour qu'il puisse distribuer les tracts.
Et du coup, il a dit,
un cosplay, tiens, on va aller concourir là-bas.
Faut expliquer ce que c'est qu'un cosplay, quand même. Hein.
Alors, un cosplay, ce sont des allumés de manga qui se déguisent de façon plus ou moins bien imitée en héros de leur leur héros préféré de leur dessin animé ou de leur bande dessinée préférée. Alors ça peut aller de Naruto à des dessins animés plutôt pour les filles, etc. Et ça peut donner lieu à des présentations dénudées ou par exemple quelqu'un qui est déguisé en lamu ou voilà, ça peut être
des fois, c'est
assez rigolo.
Des fois c'est très très ridicule, mais le public est fair play, le public ne hue pas, le public ne se moque pas, le public applaudit la performance. Et quand même, ça c'est quand même un bon esprit.
Surtout qu'il y a aussi le jeu de scène qui entre en compte. On peut défiler sur de la musique, on peut faire des chorégraphies également si on est suffisamment apte physiquement.
Le seul groupe qui a participé d'ailleurs a présenté sur une chorégraphie. Voilà, c'était 3 ninjas.
3 ninjas qui se bastonnaient la gueule en fait sur la scène. On a eu
sans aucune notion d'arts martiaux d'ailleurs.
Voilà. Ils se débrouillaient, ils se défendaient pas mal. On a eu un personnage de Angel Sanctuary, Rochelle. Princesse Arisée, Rochelle d'ailleurs qui gagnait. C'était une espagnole justement.
Alors il faut signaler que c'était sponsorisé par les éditions Cana.
Et
la fille est espagnole. Elle
ne parle pas
un mot de français. Elle vient de gagner un an de sortie de Cana. Donc de manga en français.
Ah c'est con.
Ouais, même Sabrina, l'attachée de presse de Cana, elle était là. C'est un peu idiot là.
Voilà, enfin, bon, c'est toujours sympathique ce genre de manifestation, et s'est ensuivi ensuite un concours pour gagner. C'était quoi déjà le prix? Je ne sais plus. Tiens, c'était ils ont fait monter sur scène une quarantaine de spectateurs avec des petits quiz sur le monde de la bande dessinée, sur le monde de la Japanimation, etc. Il y avait aussi des anniversaires cette année.
Oui. Oui, il y en avait deux. Voilà, il y avait deux éditeurs qui... Attends, d'abord, je voulais parler du off du festival, puisque donc et ben un off qui est devenu très important puisqu'il y avait carrément des éditeurs des labels indépendants qui ont monté des événements qui s'appelaient Littérature Pirate avec une librairie qui s'appelait Il est éphémère avec leurs propres bouquins, puisqu'ils se sont dit c'est un peu ridicule de se retrouver dans une bulle, on sait pas trop où, etc. On veut le faire dans le centre-ville. Et nos collègues de la Ferrarock, Jet FM de Nantes, si je ne me trompe, qui ont carrément monté un studio volant dans le festival et qui ont diffusé, alors je sais pas si ça a été diffusé sur Radio FMR, mais ils ont diffusé deux programmes quotidiens sur le festival. Il y avait à côté deux anniversaires, effectivement. Il y avait les 20 ans des éditions Delcourt. Alors, il y a 10 ans, les éditions Delcourt avaient fait une immense exposition et avaient vraiment mis les moyens pour en faire quelque chose d'énorme. Là, cette année, ils sont pas encore montés, mais de toute façon, ils vont faire des événements. Ça, c'est évident. Mais surtout, il y avait les 60 ans des éditions du Lombard. Alors, Thomas, tu peux sortir The Gros Bouquin à l'ancienne, qui est voilà. Donc les éditions du Lombard. Le Lombard a été créé en 1946 la principale revue qui a été créée à cette occasion-là, et ben c'était le journal de Tintin. Tintin continuait à être édité par Casterman, mais Hergé, qui était à l'époque à la limite d'être privé de sa citoyenneté belge, avait été sauvé par le fondateur du Lombard, justement, et a créé son journal dans lequel il y a plein de jeunes auteurs qui ont débuté, ou d'auteurs qui étaient plus ou moins connus à l'époque, comme par exemple Edgar Pierre Jacobs, qui avait repris au pied levé Guy Leclerc, puisque les strips étaient bloqués par les Allemands, parce que Guy Leclerc, c'est un héros américain, et l'Amérique vient d'entrer en guerre contre l'Axe. Ensuite, il a fait Le Rayon U, et en 46, justement, il a pris la suite du Rayon U, avec les aventures de Black et Mortimer. Le Secret de l'Espadon vient de sortir dans une édition qui n'est pas un fac-similé, mais en tout cas qui est présenté à l'ancienne, avec 3 pages documentaires à la fin. Ah oui, le papier est particulièrement insupportable. Hein. Il pue.
Ah, oh, c'est l'horreur.
Ah, moi j'ai eu du mal à le lire.
Oh,
J'adore cette odeur, moi.
Ah, moi je déteste. Black et Mortimer.
Ça sent le papier album, tu sais, quand tu découvrais les Lucky Luke quand t'étais petit.
Je sais pas, oui, peut-être pour toi, mais. Du coup, maintenant je sens le micro, moi.
Déjà, les micros de Radio FMR ne sont pas en odeur de sainteté, si je puis dire, mais là, désolé.
Enfin bon, c'est pas le top. Zou. Ah, ça s'appelle un plantage à la réalisation.
Et là, on a le début des aventures, le double album dans un bouquin qui est au format des Tintins de l'époque d'ailleurs, avec tous ceux qui. Quelque chose que les plus de 40 ans connaissent, c'est-à-dire l'album qui est à couverture cartonnée, le dos toilé, le papier granuleux et l'odeur de l'encre dont on vient de s'étendre pas mal. C'est un très bel objet. Et à noter, il y a d'autres classiques qui ont... Non, passe-le-moi d'abord parce que il y a mes notes derrière. À noter que justement on parlait du passé un peu trouble d'Hergé quand il publiait Tintin dans Le Soir Volé, ce qui lui a valu sa privation de citoyenneté pendant un petit bout de temps. Van Melkebeck, qui était le copain d'Hergé dans les années 40, lui avait pas de citoyenneté, il a été privé, il était poursuivi, et il a réalisé les couleurs de Edgar Pierre Jacobs à l'époque dans cet album. On note aussi dans cette même collection, pour les 60 ans des éditions du Lombard, le Corentin de Cuvelier, Paul Cuvelier, qui était le quatrième fondateur oublié du journal de Tintin. Chick Bill de Tibet, il y a Machuro qui est à l'honneur pour Chlorophylle et pour Clifton, les aventures de l'inspecteur Clifton. Crenals pour Pomme et Terry, le chevalier blanc de Funken, oula, du vieux classique là. Demort avec Monsieur Barelli, Dan Cooper de Weinberg, Modeste et Pompon d'un certain Franquin.
Ouais.
Voilà.
Ouais. C'est excellent ça, hein, Modeste et Pompon.
Ouais. Ah ouais. Paul Graton qui a fait un certain
Michel Vaillant.
Voilà.
Non,
et ben,
c'est pas Paul Gratton, Jean Gratton.
C'est Jean Gratton, pardon, excuse-moi. Et il le fait toujours quand même depuis le temps. Et Bruno Brasil de Vence, donc dans ses super collections facsimilé et du sport, va me lâcher là ce qu'il est en train de bricoler.
Ouais.
Pour me le piquer, je le sens. Donc voilà.
Ouais.
Et puis voilà. Et quand même, du sport n'a pas remarqué qu'il est 13h06 et qu'on est en train de déborder sauvagement et qu'on a heureusement fini le débrief d'Angoulême.
Ah bon, ça y est?
Ouais, ou je sais pas, t'avais peut-être d'autres choses, mais en tout cas, on continuera la semaine prochaine là-dessus, tout autour. Thomas!
On en parle jamais assez de toute façon.
Elle était facile. Je sais pas, t'avais des trucs à rajouter encore ou pas encore?
Ah non, je crois qu'on a été assez complet. Puis de toute façon, il faut passer à autre chose maintenant.
Oui. Ben avant qu'on fasse l'interruption musicale du sport, il a
oui,
en
tu
main
as des BD
deux
à
bouquins.
Rendre, on dirait.
Ouais, super.
Ah oui, Icar,
là,
ça, ouais,
c'est
je
le...
l'ai déjà, ouais.
Le Meubius, là.
Alors, t'as trouvé comment, Icar?
Putain, ça remonte à loin. Attends. Si, pas mal, ouais, si. Bien. Moi, j'ai trouvé ça bien. Hein.
Scénario,
sans problème, hein.
Scénario de Moebius et dessin de
Taniguchi,
voilà.
Ouais, non.
Chez Dargo.
Moi, j'ai trouvé les GED.
Mais c'est con parce que moi, je trouve que j'ai commis l'erreur de lire les, l'intro, la préface et tout, quoi. Ou avec, ah. Avec le, l'interview, là.
Ah sais. Oui, et donc tu t'attendais
et
à.
Donc,
autre chose.
Non, puisque bon, bah, dans l'interview, ils disent clairement que bon, bah, ils l'ont pas mis dans la BD. C'est con, bah, ça dénature un petit peu quand tu lis la BD après. Il vaut mieux d'ailleurs commencer. Par lire direct, attaquer direct la BD Icar et lire et ensuite lire les compléments et tout parce que bon ça m'a gâché un peu le trip quoi,
Thomas je sais ce qu'on a oublié, on a oublié les chroniques des bouquins qu'on a ramené, il y a les mauvaises gens, le fils du marchand, remember, et je pense qu'on le fait la semaine prochaine parce que sinon du sport va nous massacrer tout.
Ouais, on est parti pour un supplément week-end de 2 heures quoi, on va dire.
Non, du sport, t'as du Super Bowl tout à l'heure. Hein.
Ben oui, ben justement.
D'accord.
C'est de la bande dessinée aussi.
C'est de la télé, mon gars.
C'est de la télé. Bon, ben on fait une interruption alors. Ima Sumac avec l'orchestre de Les Baxter.
Celui-là, tu me le prêtes après, tu vois.
Bum 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 b
la diva qui a fait quand même les beaux jours du label Blue Note. Et c'est pas chez Blue Note justement elle a quitté, c'est chez Sol d'Or. Et je le passe à du sport parce que je crois qu'il lui a tapé dans l'œil. Hein? Ouais, ouais, bon.
Non, 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 mais je connais depuis vachement longtemps, mais alors pour trouver des disques, c'est un peu bonbon,
quoi. Si, Blue Note, on trouve, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et là, donc, c'est son tout dernier. Et de cette grande diva, complètement furieuse.
Ima Sumac, c'est une péruvienne.
Et oui. Ah ben, j'oublie. Assez forte en poitrine, mais bon, je vais pas dire qu'elle a.
Elle a du coffre, quoi, y a pas de problème.
Et des octaves en stock. Le bouquin qui a bien emporté cette année sur les prix, c'est Les Mauvaises Gens de Étienne Davodeau. C'est dans la collection Crash chez Delcourt. Et Thomas, comme c'est toi qui m'as fait le plan, ça veut dire que c'est toi qui as fait la critique, hein ?
Oui, c'est ça, oui.
Bon, Étienne.
Ouais, je dirai ce que j'en pense après que tu aies fait la chronique, toi.
Là, t'es lourd. Étienne Davodeau, c'est un auteur qui a fait pas mal dans le polar, dans la fiction, qui tourne bien, mais en général, justement, dans le côté polar noir, il y a retenu ce que l'on trouve beaucoup dans ce genre en littérature, c'est-à-dire le côté social. Il y a aussi, il avait fait par exemple chez Dargaud une histoire très touchante sur un garde-barrière de la SNCF qui n'ose dire à ses amis que maintenant tout est automatisé et que lui en fait il est à la pré-retraite et donc il fait semblant d'actionner les manettes chaque fois qu'il y a un train qui passe. Enfin bref, c'est du très grand. Et Étienne Davodeau avait sorti il y a 2 ans Rural dans la collection Crash chez Delcourt où en fait il suivait la construction d'une autoroute à travers plusieurs champs dont des champs d'agriculture biologique et du coup les agriculteurs étaient pas contents parce qu'ils perdaient leur label durement acquis d'agriculture biologique. Du sport, je sais que toi tu es un fidèle justement de ce type d'alimentation et que tu sais bien que quand même je crois que c'est 3 ans il faut pour obtenir
ouais, il me semble ouais,
c'est assez compliqué,
c'est
hein.
Vachement long quoi, c'est vachement long.
Et donc à côté de ça, il avait été préfacé, si je ne me trompe, par un certain José Bové. Et là, son nouveau tome, il s'agit de l'histoire contemporaine, pas immédiate en tout cas, mais presque, puisque on part de l'après-guerre dans un pays qui est à l'est de la Vendée, qui s'appelle les Mauges, dont on dit que le nom viendrait de mauvaises gens. En tout cas, c'est un pays qui est assez soumis à un pays de paysans qui, en général, ne font pas de vagues vis-à-vis de leur seigneur. Bref, un pays assez féodal dans le mode de pensée. Et c'est là où c'est implémenté pas mal d'usines, de maroquinerie, des chausseurs, etc. Et notamment Eram. Là-dessus, Étienne Davodeau raconte l'histoire comment les jeunesses ouvrières chrétiennes, qui était un mouvement qui a été créé à la suite des prêtres ouvriers, s'est introduit là-dedans, comment au fur et à mesure a été importé dans ce pays le syndicalisme avec la CFTC puis la CFDT. Et après, au fur et à mesure, le militantisme socialiste. C'est une histoire qui touche particulièrement Étienne Davodeau puisqu'il s'agit de celle de ses parents. Comment dire ? Que ce bouquin, oui, il a eu une flopée de prix. Hein. On rappelle, il a eu le prix de la critique, le prix du public, le prix du meilleur scénario, le prix des libraires. Mais peut-être il en a un peu trop eu. Parce qu'il le mérite, mais pas tant que ça. Ça n'est après tout que du reportage en bande dessinée. On voit mal comment il pourrait avoir un prix du meilleur scénario. Moi, la chose que je dirais, en tout cas, c'est que l'avantage de faire un reportage en bande dessinée, c'est qu'on n'est pas toujours très exact dans le dessin. Et du coup, on peut se permettre des suggestions dans la reconstitution graphique, un peu une espèce d'inexactitude, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de ne pas être parfaitement dans le style, pas être très précis, mais on peut essayer de reconstituer des choses qui ont disparu. Quelque chose qu'on peut pas faire en photographie, ni en dessiné, mais en tout cas, c'est un très beau bouquin. Étienne Davodeau, Les Mauvaises Gens, c'est dans la collection Ancrage. et du Thomas va venir à ma rescousse. Oui, j'aurais su, j'aurais écrit.
Puisque c'est un album qui s'inspire de témoignages de ses parents. Et justement, ce qu'il y a d'intéressant dans le bouquin, c'est qu'il se met lui-même en scène, l'auteur. Il présente son enfance, il se représente avec un album justement d'Astérix et les Bretons entre les mains quand il était petit. Et puis ensuite, il se représente en tant que dessinateur qui interviewe justement les personnes qui vont l'aider à faire cet album. Et on le voit tâtonner en disant, tiens, je suis en... On le voit par exemple avec son bloc à dessin, en train d'écouter ce que disent les personnes interrogées. Ensuite, il dit, tiens, ça ressemblait peut-être à ça, ce paysage. Oui, c'est plutôt comme ça. Tiens, elles sont pas mal, tes planches. Et on voit justement en direct quasiment les personnes qui sont en train de lire les planches qu'on est en train de lire, nous. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et
donc il y a la réaction un peu en direct, comme un retour plateau, je dirais.
Voilà, mise en abîme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce bouquin a une forte valeur pédagogique, hein, sur qu'est-ce qui s'est passé depuis l'immédiate après-guerre jusqu'à 1981 et l'accession de Mitterrand au pouvoir.
Mais surtout, ce qui est très étonnant, c'est de voir comment la France a énormément évolué dans les mœurs en pratiquement 40 ans. Et comment, eh ben avant, c'était des gens qui pliaient les chines devant les grands patrons, etc. Et qui là, eh ben, se sont révoltés en 1972 quand il était question de fermer l'usine Eram, justement dans les Mauges. Ça vaut le coup d'œil, sincèrement, ça vaut la lecture. On aime, on n'aime pas. C'est un format A5, donc ce sera pas forcément pratique, je dirais, pour vos parents. C'est du noir et blanc, mais en tout cas, ça se laisse vraiment lire. C'est plutôt étonnant.
On va passer à la bande dessinée chinoise maintenant.
Et oui, puisque c'était vraiment les très grands présents cette année. Ils étaient venus en force.
Ah, attends. Du sport avant de taxer, il y a Sabrina qui est en train de le lire. On te le prêtera la prochaine fois, si tu veux.
Non, bon, ça y est, elle a lu.
C'est bon. Tu peux
c'est bon
lire, hein. Oui, t'inquiète. Hein. Allez. Y a pas de soucis.
Ok.
Vas-y, du sport, c'est bon. Tu peux le prendre.
Merci. On parle chinois maintenant.
Hop. Chinese. Chine continentale.
Voilà, avec le fils du marchand de Nie Chonglui, et c'est chez Xiaopan. Alors, l'auteur, il est né en 43 à Calcutta, et il a fait les Beaux-Arts de Pékin. C'est la première fois qu'il est publié en France, et il s'inspire pour cet album des Chroniques de l'étrange. Alors, ça a plusieurs noms, ça s'appelle aussi les Contes étranges du studio du Bavard, ou Contes fantastiques Liaozai. C'est un recueil de plus de 400 nouvelles écrites par Song Ling, peut-être que tu connais, Sabrina. C'est un auteur assez connu en Chine, qui est un auteur du 17e siècle.
Oui, peut-être.
Ouais, merci. Et donc c'est l'histoire de Petit Coup. Donc,
je vais te donner ça après. Pour le moment, j'ai du mal. Là,
bon, d'accord. C'est l'histoire de Petit Coup. C'est le jeune héros de l'histoire qui est donc le fils du marchand et dont la mère une nuit est violée par un renard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie chinoise, les renards ont des dons de transformisme et pour chasse
comme les tanuki,
voilà. Pour ceux qui ont vu Pompoko, voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que
les animaux ont la capacité de se transformer.
Certains animaux, pas tous, il y en a 3, voilà. 3, 4.
Bah, les renards, les tanuki, les ratons laveurs, et il y a les loups aussi.
D'accord. Et donc les renards sont beaucoup moins gentils que les tanuki. Ils pourchassent les humains de leur appétit sexuel. Et donc Petit Coup il est en train de voir sa mère en train d'être possédée. Il va devoir compter sur sa ruse et son courage pour parvenir à neutraliser ce renard que même un moine taoïste appelé en renfort ne parviendra pas à surclasser. D'ailleurs, c'est un duel homérique où le renard neutralise le moine avec un paix ravageur.
D'accord, tout en finesse.
D'accord.
Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un conte. Donc, au premier abord, il est destiné aux enfants, mais le côté la mère qui est violée, surtout qu'on voit, elle se fait sodomiser par le renard quand même, donc à pas mettre devant tous les yeux. Et donc voilà.
Malgré le dessin. Hein,
alors, justement, j'en viens au graphisme. Alors, le graphisme est assez naïf, on va dire, très épuré. C'est ça un peu où le bas blesse dans cet album, c'est que on sent vraiment que l'auteur, il s'est pas fait chier pour les fonds. Il a allé un petit dégradé sur Photoshop et hop, c'est emballé.
À la limite, je préfère la deuxième couverture.
Voilà, c'est ça qui est assez irritant, c'est que dans la couverture, la page de garde et même les essais graphiques qu'on voit en noir et blanc au départ, laisser présager que l'auteur, ben voilà, il a un sacré coup de crayon et tout, et c'est un truc qu'on retrouve absolument pas dans la bande dessinée, parce qu'on peut faire des bandes dessinées épurées avec un trait, un cerné assez épais, mais
là,
voilà. Donc là, on ne sent pas trop la nervosité du trait, c'est ça qui est un peu dommage. Et donc voilà, mais sinon, bon, l'histoire ça se lit assez vite puisque c'est quand même un conte, donc assez simpliste, on va dire, basique. Mais là où j'ai trouvé qu'il y avait une grande qualité dans cette bande dessinée, c'était le découpage, puisque l'auteur maîtrise parfaitement l'ellipse. C'est-à-dire que ça, on peut avoir des scénettes qui s'étalent un peu et d'autres vraiment qu'il faut lire entre les cases, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et bon, sinon. Voilà, il s'agit du Fils du marchand de Nichonguri et c'est chez Xiaopan, et il me semble, Xavier, que tu as un autre album Xiaopan à chroniquer.
Oui, il s'agit de Benjamin. Benjamin, c'est le nom de l'auteur, et donc.
Il n'est pas français, il est chinois.
Il est chinois, voilà, et ça s'appelle Remember. Le Benjamin en question, en fait, est un ancien étudiant en couture et en mode, et si Thomas pouvait me ressortir le bouquin qui est derrière, ça sert à rien si tu es fou là-bas. Ah, donc voilà, donc c'est. Un petit format en couleur. Lui, sa spécialité, c'est le dessin avec Painter. C'est-à-dire qu'on a vraiment des coups de pinceau qui sont donnés à la tablette graphique, et ça donne un graphisme assez étonnant, très beau, qui a scotché tout le monde parmi les professionnels. C'est-à-dire là, ils se sont dit, ça y est, on est foutu.
Il y a des retouches photos aussi dedans. Hein.
Oui, pourtant il le dit lui-même, non, je débute, je commence à peine. C'est un peu la jeunesse désabusée dans Shanghai, dans la grande ville industrielle, qui essaie un peu d'amener de la créativité, essayer un peu de chercher des ouvertures dans une Chine qui n'est plus sous la coupe d'une pensée unifiée, mais en tout cas qui est encore sérieusement cadenassée. C'est-à-dire que c'est des choses... qui pour lui font partie de la vie quotidienne, comme par exemple aller dans un cybercafé avec sa carte d'identité. En France, on n'en est pas là, pas encore. Le mode de pensée des éditeurs, notamment page 17, quand il présente son histoire d'amour, etc., il y a un éditeur qui lui dit « Non, pas du tout. Si tu veux faire une bande dessinée que lit le public, tu copies le dessin des Japonais qui ont du succès, tu te bases sur l'un des quatre romans traditionnels de la Chine et tu n'en sors pas. Si tu copies pas, ça n'aura pas de succès. T'embêtes pas. Fais de la copie comme tout le monde. » Ça fait un peu froid dans le dos, ça fait penser surtout à tous les investisseurs qui se disent « Oui, en Chine, on produit bon marché, bon, on prend le risque de se faire copier, etc. » Bah là, les gars, cherchez pas à comprendre, hein, c'est les mêmes usines et tout ça, hein, là-dessus, vous le saurez très vite. Et c'est marrant, c'est matiné un peu d'histoire personnelle, un peu de son blog, et d'un autre côté, d'histoire un peu créée, un peu inventée, mais en tout cas dans lequel, il se retrouve. Et c'est très beau, graphiquement c'est vraiment superbe, nous ça nous a scotché, il n'y a pas d'autre terme.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que justement il utilise des teintes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les bandes dessinées, surtout cette teinte turquoise qui vient baigner toutes les cases, et je pense qu'il est intéressant de peut-être donner la parole à quelqu'un qui a l'habitude justement d'utiliser Painter.
Allô. Excusez-moi, pardon.
Non, j'étais plongée par téléphone.
J'étais plongée dans la BD, effectivement. J'étais en train de m'attarder sur le plan graphique.
Ah, tu l'avais pas encore lu, d'accord.
Non, je l'avais pas lu. Non, je l'ai pas lu. Effectivement, puisque j'utilise aussi le Painter, un logiciel de, on va dire, spécialisé illustration.
Et qui est très particulier et très peu diffusé. Hein.
Tout à fait. On fait aussi de la retouche photo avec Painter. Mais c'est vraiment... on peut utiliser toutes les techniques de pinceau, comme à la peinture, les brosses, les craies d'art, les fusains. Mais c'est vrai que ça a une touche. C'est vrai que ça fait une touche fait main, quoi.
Eh ben merci pour ces commentaires, et donc
désolé parce que j'étais plongé dedans.
Voilà. Remember, c'est un dessinateur donc qui s'appelle Benjamin, qui est chinois, c'est édité par Xiaopan. Et gardez-le vous derrière l'oreille, ce type risque de revenir en France à mon avis avec des choses aussi bien suivies. En tout cas c'est très beau, et ça nous a littéralement scotché. Il est très original, et il explique lui-même que c'est très difficile d'être original dans un pays pourtant aussi grand comme la Chine. Avant de passer à du sport, c'est lui qui a sa prog. J'ai mal écrit. Végomatic, action. Chanel.
impossible, de terrible. I can get satisfaction. Вообще. И я гуляла по улице, одинокая такая. И смотрела на небо, смотрела под ноги, смотрела везде вокруг. И я была такая счастливая, мне надо было выходить отсюда. Moving on, nothing ever gonna stop me. Moving on, I just gotta go my way.
La télévision vous est présentée par du sport dans Supplément Week-end, il est 13h27.
13h27, ouais. Donc,
on n'a jamais autant débordé.
Non, là c'est bon. Si, on avait déjà débordé
jusqu'à
49.
Enfin, on va essayer d'éviter cette fois-ci.
Ouais, non, mais là c'est bon, hein, jusqu'à 14h, tranquille. Et puis voilà, bah, comme ça j'ai trouvé quelqu'un qui me fait la technique pendant l'émission de sport, c'est bien, c'est sympa. Merci Xavier, merci beaucoup.
Collé.
Alors, tu me parlais hier au téléphone de deux événements à la télé cette semaine. On va commencer par celui qui commencera en fait la semaine prochaine. Moi j'ai vu la bande annonce comme ça un petit peu au hasard sur Canal, c'était hier, et bon bah ça m'a un petit peu intrigué, hein, parce que bon, voilà, bon, l'annonce est bien spectaculaire et bien rentre dedans.
Elle est étonnante, hein. Ah ouais.
C'est, bon bah ça te met tout de suite dans l'ambiance. Et il s'agit de Monster. Là on est encore dans la bande dessinée, vous voyez, on fait le raccord comme ça, mais tout doucement, hein, tout doucement, venir à la télé. Monster qui est je vais ressortir un bouquin comme ça, quoi. Tiré du manga éponyme qui s'appelle Monster, hein,
Non, pas Monster.
Monster.
Non, c'est Monster. Monster. Inspiré de Monster.
Qui est sorti chez Kana, donc on en parlait juste avant, hein, en plus sous je sais pas combien de volumes, là tu m'as laissé, je sais pas, au moins 7 ou 8 bouquins, quoi, mais enfin bon, ça a l'air d'être du lourd. Ça commence sur Canal à partir de vendredi prochain. Alors c'est assez étonnant.
Tiens,
parce
on
que...
a les captures d'écran de la série pour que tu puisses comparer.
Ouais, c'est assez étonnant parce que bon bah vu le 10 février prochain, donc à 18h25, diffusé en clair et avec la pastille -10. Bon bah -10, à mon avis, ça doit le mériter largement.
C'est pas la première fois puisque Samurai Champloo là qui
est en train de diffuser, non, qui va remplacer Samurai Champloo. Hein,
non, c'est arrêté
moment.
Là.
Non,
arrêté.
Non, c'est encore diffusé la semaine prochaine, de lundi à jeudi, donc. Samurai Champloo sur Canal+, au même horaire, et à partir de vendredi, donc, hein, c'est Monster qui va remplacer Samurai Champloo.
Alors toi, -10, c'était -10, Samurai Champloo.
Non.
Certains épisodes.
C'est Monster, hein, qui est en -10 direct.
Samurai Champloo, rien du tout.
Je sais pas.
De toute façon, ils avaient passé GTO dans le même créneau, donc là, c'est carrément -12.
Alors Monster, c'est quoi?
Alors Monster. Monster, c'est un manga assez étonnant, très bien graphiquement, et c'est l'histoire d'un médecin japonais qui officie en Allemagne de l'Est. On est en 1986, si je me souviens bien, dans le premier tome. Et en fait, c'est un médecin qui a tout, qui a le succès, qui a surtout l'habileté et qui réussit très très bien toutes ses manœuvres. Et un soir, on lui dit, ben voilà, il y a le maire de la ville, c'est à Munich, c'est pas une petite ville, qui vient d'avoir un accident cérébral, etc. Il faut aller l'opérer de suite. Oui, mais lui, il est en train d'opérer deux gamins. C'est deux gamins qui sont les fils de diplomates d'un pays de l'Est, qui ont été choqués après un meurtre littéralement affreux. Donc, il a décidé de sacrifier un patient pour sauver justement le gamin en question. Et malheureusement, il se rendra compte 10 ans après, une fois que l'Allemagne sera réunifiée, que ce gamin a eu un choc monstrueux dans sa jeunesse, mais ça datait de bien avant, qu'il est devenu un tueur en série, absolument froid, absolument sans aucune passion humaine, mais avec les meurtres de la pire cruauté. Et donc le docteur Tenma décide de renoncer, je dirais, un peu à ce qu'il a fait, à son rôle de médecin, pour essayer d'arrêter ce monstre, puisque c'est le titre du bouquin, et donc de y courir après. Là, on tourne un peu au fur et à mesure vers le fugitif, mais il y a plus que ça, puisque, primo, première chose à signaler, le dessinateur, je crois que c'est une dessinatrice d'ailleurs, connaît très bien l'Allemagne, y a vécu, le fait sentir, parce que les détails sont très précis de ce côté-là, et d'un autre côté, on est vraiment face à un polar terrifiant qui laisse pantois.
Voilà, donc c'est sur Canal, c'est à partir de vendredi prochain, je rappelle, 18h20, 18h25, hein, selon les jours. Ensuite, c'est diffusé tous les jours. Le deuxième événement dont on avait parlé, hier après-midi, en fin d'après-midi, eh bien, c'est la diffusion demain soir sur France 2. Et non pas Canal. Canal a jeté l'éponge, carrément, ils en avaient marre. Et donc, c'est France 2 qui a repris les droits de diffusion du Super Bowl. C'est la grosse finale. C'est la finale du football américain.
C'est le canal à pub qui coûte cher.
Voilà. Donc, là, on en est au 40e Super Bowl.
On n'aura toujours pas les pubs, cette année.
Faut savoir que ça a été un petit peu instauré parce que on voulait changer les règles du jeu, au niveau de la désignation du champion. Et donc, on a instauré ce système avec ces playoffs, avec ces histoires de finale. En fait, c'est le football américain qui a plus ou moins singé ce qui se faisait en basket. Le Super Bowl, c'est le 40e, donc, alors que le foot américain, ça fait vachement plus longtemps que ça dure, hein, quand même. Et depuis qu'il y a Canal, en fait, c'est Canal qui avait acquis les droits en 84, date de création de la chaîne Canal, et qui diffusait régulièrement tous les Super Bowls avec, bien entendu, George Eddy, le mec de là-bas. France 2, donc, vous le propose demain soir à partir de 23h45, coup d'envoi fixé à minuit en principe, avec des commentaires. Là, on aura droit à Richard Tarditz et à Christian Choupin. Christian Choupin, c'est le fils de Joe. Joe Choupin, membre canal historique du service des sports de France 2, Antenne 2, la 2, enfin tout ce que vous voulez, ok. Spécialiste dans le ski, généralement, enfin plus quoi. Et Richard Tardist, c'est un mec qui sait de quoi il parle, vu qu'il a joué au football américain, et il a même intégré pendant trois saisons, me semble-t-il, une équipe de foot américaine, les New England Patriots, si je me souviens bien aussi. Ok, donc il sait un petit peu de quoi il parle. Le Super Bowl, c'est bien entendu au niveau de la télé, c'est un truc énorme, c'est monstrueux. C'est ABC qui a les droits de diffusion et qui donc se fait des couilles en or, car le show est quand même diffusé dans plus de 200 pays dans le monde, c'est énorme, c'est plus que la Coupe du Monde de foot, quoi. Attention, c'est plus que la Coupe du Monde de foot.
Ouais.
Le show de pub, les 30 secondes de pub valent $1 million. C'est les tarifs les plus insensés.
C'est que des spots originaux en plus qui sont diffusés, qui sont prévus pour être passés qu'à ce moment-là.
Qui sont prévus pour passer uniquement à ce moment-là et qu'on retrouve après dans les florilèges de culture pub.
Ouais, ça n'existe plus, culture pub.
Ouais, enfin,
on les retrouve
génération
plus.
génération pub qui passe en ce moment sur Planète. C'est pas mal, qui fait des espèces de pitch comme ça, des thèmes sur les pubs, c'est pas mal, c'est assez rigolo. Alors ABC, il faut dire que le Super Bowl, la finale du Super Bowl dans l'histoire de la télé américaine, c'est quand même 6 des 10 meilleures audiences. Ça veut dire que ça veut tout de suite dire ok, si tu veux payer, si tu veux le truc, il n'y a pas de problème, il faut débourser très très cher
depuis
très,
la création très, très, très en 70 cher. Si je me trompe pas.
Voilà, c'est ça. Ça va se passer à Detroit, au Ford Field Stadium. Et ce qui est intéressant quand même, l'aspect purement sportif de l'épreuve, c'est qu'on va voir deux équipes qui ont pas trop l'habitude de cet événement, les Steelers de Pittsburgh quand même un petit peu plus, vu qu'ils l'ont déjà emporté, mais pour les Seattle Seahawks, là ça va quand même être la nouveauté. Faut savoir également que les Seattle Seahawks sont fortement encouragés, sponsorisés et dirigés par un mec que vous connaissez bien, que vous haïssez au plus haut point. Monsieur Microsoft, Bill Gates, qui est derrière, c'est les Seattle Seahawks, donc. Hein. Donc ça va être un petit peu si Bill Gates contre les magnats de l'acier, hein, puisque les Steelers, en fait, c'est les
le brick and mortar contre la nouvelle. Le brick and mortar contre la nouvelle économie, ça va être joli ça.
Ça se passe demain soir, donc à 23h45 sur France 2, et comme d'habitude, bon, il n'y a pas que les pubs à la mi-temps, il y a également le show en direct à la mi-temps. Hein.
Yes.
Il y a deux ans, on avait eu droit. Onibar.
Ah oui, de Janet Jackson.
De Janet Jackson. Là, ça va être un petit peu plus dans la gérontophilie. Parce qu'on aura les Rolling Stones à la mi-temps.
Et ouais. Ah ouais. Alors, faut savoir, l'an dernier, déjà, c'était pas triste, hein. C'était Sir,
Elton John.
Elton John, oui.
Ouais. Bon,
ouais. Et tu parles de pub, mais autant que je me souvienne, t'as une pub toutes les 10 minutes, hein. Donc, faut apprécier, hein.
Parce que bon, attention,
On les a pas en France.
Ouais. Bon, si vous connaissez pas du tout le foot américain, ça va vous dérouter complet parce qu'il s'arrête pratiquement tout le temps. Il joue très peu, il y a très peu de temps effectif de jeu. Hein. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu parce qu'il faut replacer, il faut changer. Il y a un système d'attaque-défense. Il y a un certain nombre de yards à parcourir, un certain nombre d'essais, hein, tout simplement, pour pouvoir continuer à posséder le ballon. Hein. Sinon, il faut le rendre en donnant un coup de pied. Enfin bon, les règles sont assez simples, mais enfin bon, il vaut mieux quand même. On compte quand même sur Richard Tardis, hein, pour expliquer les trucs de base aux néophytes, hein, sachant que c'est quand même très compliqué parce que il y a un langage corporel de la part des arbitres. Il y a plusieurs arbitres et qui ont un langage corporel au niveau des différentes interprétations du jeu qui sont quand même assez difficiles à comprendre. Hein. Enfin, disons pour
en
le
tout cas, il y a un manuel d'initiation à ce sport qui s'appelle l'enfer du dimanche de Oliver Stone pour commencer.
Ouais, mais enfin bon, faut déjà connaître un petit peu, hein, pour saisir dès le début, hein, ce qui se passe dans Any Given Sunday, parce que bon, c'est quand même spécifique. Hein.
Il y a une chose aussi, je me souviens que l'an dernier, le commentateur de Canal nous disait pendant le florilège de la NFL qui était diffusée, en fait, il nous disait, non, là en ce moment, il y a un show militaire, puisque c'est vrai que les militaires sont très présents, hein. Il y a les chorales, il y a les passages des derniers avions, patrouilles,
attends,
etc. C'est énorme.
Propagande à fond, là. Hein.
C'est propagande à fond. Profite, là, hein. Et l'an dernier, il y a la NFL qui a jugé que c'était pas très diplomatique de diffuser justement le show de l'armée, parce que là, c'était carrément à la gloire de notre mission pacificatrice en Irak, là-bas aux États-Unis, pour eux c'est normal, c'est standard. C'est vrai que ça pouvait choquer un peu. Hein.
Voilà, et si vous avez décidé de passer une soirée entière demain sur concernant le foot américain, il n'y a pas de problème parce que avant la diffusion donc par France 2 à 23h45 en direct, hein, du 40e Super Bowl entre Pittsburgh et Seattle, France 4 vous propose demain soir à 20h50 l'émission Soyons Sport. Alors là, avec l'insupportable Patrick Montel, bon, enfin bon, elle a pu pondérer Frédéric Banguet. Et donc, spécial Super Bowl et sport américain en général, hein, c'est-à-dire on n'évoquera pas uniquement le foot américain, mais également le basket, le hockey, hein, la NHL et tout ça, le baseball, bien entendu. Et à 22h25, un documentaire qui a suivi un petit peu le parcours, hein, le parcours sportif de ces deux équipes en route pour le Super Bowl 2006 à 22h25 jusqu'aux environs de 23h20. Il sera temps de zapper sur France 2 pour suivre le Super Bowl en direct.
J'ai pas la DSL en ce moment.
Et comme ça, tu comprendras mieux en fait, hein, comment ça se passe, hein, le match. Voilà. Et quand on tant qu'à y être dans les grands messes. Une autre grand-messe, c'est le week-end prochain, non, c'est en plein milieu de la semaine, on avait déjà eu Paris Première qui est un petit peu spécialisé dans ce genre de diffusion, et là c'est W9 qui s'y colle, hein, pour la diffusion en direct, s'il vous plaît, des Grammy Awards.
Yes.
Les Grammy Awards, c'est quoi? C'est un petit peu les victoires de la musique américaine. Mais enfin, là, c'est le haut du panier, hein, parce qu'après, il y a différentes catégories. Là, c'est les Grammy généralistes, on va dire. Et après, t'as des Grammy spécialisés, hein, Grammy latino. Enfin bon, voilà quoi. Les Grammy Black. Enfin bon, t'en as plusieurs, quoi, comme ça. Mais ça, c'est les grands, c'est ceux qui sont sur le top de la liste, quand même.
C'est les blancs.
Non, il y a les blacks aussi, quoi. D'accord. C'est-à-dire, ça, c'est surtout ok, ceux qui ont vendu le plus, hein, là c'est deux chiffres dont on parle, ceux qui ont ramené le max de pognon.
D'accord. Donc voilà, c'est les blacks quand même. Ça, hein.
Ouais, c'est aussi les blacks, pas de problème. Mais il y a pas que, il y a pas que. Hein, tu découvres justement les blacks, tu les connais généralement parce qu'ils sont importés chez nous, hein, via certaines radios dont on ne dira pas le nom. Et il y en a d'autres, des groupes complètement inconnus, mais qui ont cartonné aux États-Unis, les country ou des groupes de pop rock, des trucs comme ça. Ou,
ouais, parce qu'il faut expliquer que la
Rock FM qui ont vendu des millions d'albums aux États-Unis, uniquement aux États-Unis, mais qui sont absolument pas connus chez nous.
Faut expliquer qu'aux États-Unis, plus de 40% de la vente de disques, c'est de la country. Et franchement, vous ne supporteriez pas ça, excepté
non, pas 40%. Non, la country fait un quart, hein, c'est-à-dire 25%. Hein, attends.
Tu veux que je te ressorte les chiffres que j'ai au bureau?
En tout cas, bon, laisse tomber. En tout cas, c'est sur W9 mercredi prochain à partir de 2h du mat, comme c'est en direct, hein, décalage horaire avec la California et les commentaires. Là, c'est là que ça peut être un peu rigolo parce que on a droit à l'insupportable Virginie Efira. C'est celle qui vous avait fait oui, les 100 plus beaux moments de je sais pas quoi.
Mais l'avantage c'est que quand elle est présente, c'est de la voir. Mais là, si on voit que la voix.
Ouais, mais attends, parce que bon, il y a Doc Gynéco avec elle. Alors, à 2h du mat, à 2h du mat en direct, ça peut être rigolo. On sait jamais, hein, de toute façon.
Donc. Café.
Ouais. Grammy Awards, donc, à 2h du matin, mercredi prochain sur W9. Ouais, ça va, on avance quand même un petit peu. On attaque un petit peu les séries avec, on parlait de tueurs en série avant, dans Monster. Il y a également une série diffusée sur Canal Jimmy depuis, un bon petit mois, on va dire, hein, une série argentine, vous en avez parlé, Epitafios, qui parle de l'histoire d'un tueur en série, un tueur en série organisé, et qui réveille un petit peu tout son bon monde, hein, pour obtenir sa vengeance. En fait, c'est un mec qui cherche à se venger. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est que durant les 4 premiers épisodes, le tueur en série agit. Ben, on ne voit pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, il reste dans le noir, planqué, c'est-à-dire on en connaît autant, un petit peu plus on va dire quand même, que les flics. Au bout de 4 épisodes, on découvre son visage, pas de problème, c'est nickel, c'est pas mal, on se dit la série fait 13 épisodes, comment on va faire pour tenir? en fait il tient bien, hein, il continue même tranquille, et là on se rend compte que en plus d'être vachement bien organisé, d'avoir beaucoup de pognon, hein, ce qui aide à être bien autonome, hein, et, ce qui aide à mettre des mises en scène particulièrement gore, particulièrement macabre, en ce qui concerne ses différentes victimes, hein, toujours tuées et achevées selon un plan et selon une éthique très très spéciale, hein, très spécifique de toute façon, qui remonte à l'époque où il s'est passé certaines choses. Et au bout de 7 épisodes, au bout du 7e épisode, on se rend compte, ça y est, enfin, que on sait pourquoi il est mu, quel est son sentiment, il veut se venger, enfin, pourquoi il tue ces personnes, pourquoi il les tue dans cet ordre-là, pourquoi pas d'autres, et on découvre également qu'il a bien réussi à leur baiser la gueule, parce que en fait, il en connaissait vachement sur eux, sur les flics et sur les différents protagonistes principaux de l'histoire, c'était un pote à eux, qui arrivait à se glisser, soit comme patient de la nana, soit comme travesti qui fournit les pilules au Alex flic devenu chauffeur de taxi. Bref, ça a bien fonctionné, ça a bien marché. Et dans le générique qu'on voit depuis le début, on voit Cécile Roth dont je voulais parler et qui joue dans
Sur ma mère,
hein, de Almodovar. Et en fait, elle n'apparaît qu'au 7e épisode. Et donc, tu te tapes les 7 premiers épisodes avec Cécile Roth au générique et tu te rends compte qu'elle apparaît au 7e épisode. En fait, elle est là, super flic de la police scientifique, diplômé.
Vas-y, saupoudre le luminol.
C'est ça, diplômé de Quantico, enfin de Quantico en Argentine. Bref, qui arrive et tout. Et puis pratiquement en un épisode, elle arrive à savoir qui c'est, tranquille. Les autres, en même temps, ils arrivent aussi à savoir qui c'est, c'est-à-dire à découvrir sa véritable identité au mec, au tueur en série. Et ce tueur en série, en fait, qu'on découvre qu'au 4e épisode, on voit sa gueule dans le générique dès le premier épisode, vu que c'est Antonio Birabent, qui est le second nom au générique, après Julio Chavez, qui interprète le rôle de l'acteur principal Renzo Marquez.
Ça s'appelle un spoiler.
Qui est d'ailleurs un anti-héros, mais assez je veux dire, physiquement, bon, bah, ok, quoi, c'est vraiment pas le jeune premier, hein, le mec, un petit double manteau tranquille, un petit bide, il doit faire la 45L, la cinquantaine tranquille, assez mal rasé. On remarquera que ça a été filmé en Argentine, ça, c'est diffusé en ce moment aux États-Unis, mais je suppose qu'il y a des ligues entières qui ont déjà dû monter au créneau, non pas pour la violence, hein, car c'est moins 10, ça reste encore de la violence assez suggérée, on va dire, bon, bien sûr, c'est assez sanguinolent quand même, hein, les têtes coupées, des mains coupées, il n'y a pas de problème, mais on va dire, ce qui choque le plus, c'est les cigarettes, c'est le fait que pratiquement tout le monde fume à fond les manettes. Il faut dire qu'un épisode de 52 minutes, Renzo Marquez doit bien fumer au moins 6-7 cigarettes par épisode. Et donc, il faut dire que bon, bah, ça la fout un peu mal parce que bon, bah, on voit jamais ça dans d'autres séries. Vous ne verrez jamais ça dans une série américaine de toute façon. Déjà, un flic allumé une clope, non, c'est fini, ça n'existe plus. Hein. Ou vraiment, c'est pour marquer le coup.
Ils sont tous devenus non-fumeurs là-bas.
Quelques séries très spécifiques.
Ou alors des choupa choups.
Mais même, hein, c'est vraiment assez remarquable, hein, de toute façon, dans cette série. Et comme Antonio Birabén, ça m'a tapé un petit peu dans l'œil de ma femme, faut dire, eh bien, elle a décidé de faire une petite recherche, hein, sur qui était cet acteur, hein, qui joue dans le rôle du tueur en série, hein, faut dire, assez jeune, comme ça, un petit peu entre les deux, on va dire, hein, il faut qu'il joue l'autre. Il se travestit également, quoi, aussi à l'occasion, donc c'est un petit peu troublant, quoi. Et en fait, il s'avère que c'est pas du tout un acteur de métier argentin, mais que c'est un auteur de canción argentin, hein, qui fait dans la chanson plutôt douce, on va dire, bien que sur son titre, les images de photos de concert, hein, bon, faut dire qu'il tient bien la Fender quand même, il a l'air de bien s'éclater quand même. Peut-être que par d'ici, bah, je pense que peut-être la semaine prochaine on pourra écouter un morceau de ce monsieur, hein, Antonio Giravent, donc le tueur en série de Epitaphios. Alors ça passe tous les dimanches sur Canal Jimmy de 20 à 20h45. Alors c'est en version masterisée, soit en version française, soit avec la zapette en version originale, c'est-à-dire en espagnol. Et là, bah, bon, je suis un petit peu néophyte en espagnol, mais il faut remarquer quand même, l'argentin, c'est pas du tout, la prononciation est pas du tout la même, hein, que l'espagnol, hein.
C'est un très large continent.
Il mange les mots quand même, hein. Certains trucs et tout, comme, enfin bon, c'est pas mal, hein. De toute façon, bon, c'est le langage assez cru et tout, c'est bien pour apprendre les jurons, l'argot et tout, hein. C'est une série qui est carrément impeccable, hein. Nickel. Donc, Canal Jimmy, donc, à 20h45. Demain, l'épisode 9 et l'épisode 10. Et je crois que Cécilia Roth, elle va manger grave, quoi, en fait. J'en vous en dis pas plus. Allez, il y a d'autres séries également, hein, par exemple, des séries réalisées par des acteurs, d'anciens acteurs de séries. New York 911, série 6, saison 6, c'est demain soir sur 13ème rue, saison 6, c'est la dernière, et je vous propose deux épisodes demain soir. Le premier, Racine, réalisé par Paul Michael Glaser.
Starsky et Hutch,
qui était apparu dans la saison précédente dans la saison 5 de New York 911. C'est la saison où il se fait descendre par Kobe Bell, parce que Kobe Bell, l'acteur Doc dans la série, il avait marre, il voulait se barrer de la série à la fin de la saison 5, et donc ils ont trouvé cet artifice scénaristique en disant, ok, quoi, tu vas le descendre, comme ça c'est sûr tu quittes la caserne des pompiers.
Et
donc il descend Paul Michael Glaser, qui est venu remettre de l'ordre dans la caserne de New York 911. Et la saison suivante, Paul Michael Glaser réalise donc cet épisode Racine, qui est diffusé demain soir. Oui.
On a passé le record. Il est 49.
Yes. Le deuxième épisode, juste après, hein, l'épisode de Michael Glaser, de Paul Michael Glaser de New York 911 demain soir, à chacun son dieu, est réalisé, bah, par un des acteurs de la série New York 911 et qui officie depuis le début. Il s'agit de Skip Sedut, hein, le vieux, hein, qui est partenaire avec le Black, là, avec le grand Black, je me rappelle pas comment il s'appelle, voilà. Sinon, bah, je parle de saison 6 et dernière saison pour New York 911, c'est également la dernière saison pour Six Feet Under. Saison 6 sera la dernière. C'est diffusé donc demain soir, bah, à la suite d'Epitaphios sur Canal Jimmy à partir de 22h40. Paul Michael Glaser, qu'on peut également, eh ben, pas voir demain soir, mais admirer la réalisation dans des longs métrages, et c'est sur Arte demain soir. Si c'est pas des conneries, hein. La théma, c'est patin glace. Ok, à partir de 20h50, est illustré donc par un film en première partie qui s'appelle Le Feu sur la glace, un film de Paul Michael Glaser de 93, avec Debbie Sweeney et Moira Kelly dans le rôle titre. C'est-à-dire, c'est en fait l'histoire d'un hockeyeur et d'une patineuse, hein, qui vont former un couple et puis qui vont gagner l'or à Montréal, aux Jeux Olympiques, enfin, tu vois, un truc comme ça. Mais il y a également Terry Queen dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps.
Oui,
que
de Lost
entre autres. Et à 22h30, un documentaire et l'historique un petit peu du patinage artistique, hein, qui s'appelle Si les pieds avaient des ailes. Et à 23h20, alors là il faut pas le louper parce que ça c'est vraiment la plus grande dame du patinage artistique, Sonia Henier, un documentaire qui lui est consacré. Championne du monde à 14 ans, elle a gagné 3 médailles d'or en 28, en 32 et en 36. Hein, laissez tomber Katharina Witt, toutes les autres.
J'ai cru entendre une autre Sonia.
Laisse tomber, bon, c'est Sonia Henier. Sonia Henier, donc. Demain soir, à partir de 23h20 sur Arte. De la série encore de la série. Ouais, bien sûr. Avec NYPD Blue, lundi dernier épisode. Et puis bon, voilà, on a compris, hein, 12 saisons pour arriver à ça, pour arriver à cette conclusion, à l'idée de Steven Bochco. En ce qui concerne Sipovic, en fait, c'est l'histoire d'une rédemption, tout simplement, vu que la dernière image de Sipovic, c'est Sipovic qui se retrouve patron de sa brigade, chef de son équipe de détectives, hein, après des débuts, on va dire, très très chaotiques. On va dire, c'est l'histoire de cette rédemption. Sipovic, c'est fini donc la diffusion et c'est complètement terminé sur Canal Jimmy. Par contre, il y a un petit décalage avec la diffusion de France 3 tous les lundis soirs à 23h05. Et là, on pourra voir également deux épisodes, Meurtre à l'hospice et le blues du sergent Sipovic. De la saison 12, hein, donc la dernière saison, le blues du sergent Sipovic, il a été promu sergent, donc il doit descendre de l'étage où il est avec les flics en civil, avec les inspecteurs, et il se remet en uniforme pour être le patron de tous les flics en bleu qui sont sur la rue. Voilà, et donc ça c'est sur France 3 à partir de lundi prochain, à partir de 23h05. Canal Jimmy qui vous propose pas de neuf, mais qui vous propose peut-être une diffusion dans l'ordre. Et là, ça va valoir le coup parce qu'il y a plusieurs saisons et pas mal d'épisodes qu'on a vus, mais enfin comme ça, un petit peu dans le désordre. C'est la série Millennium, l'excellente série de Chris Carter, hein,
yes. qui a pas si bien marché.
Qui a pas si bien marché, mais qui a été massacré au niveau de la diffusion par toutes les chaînes qui s'y ont essayé. Hein, faut dire ce qu'il y a, hein, y a pas de problème. Et là, on va voir si Jimmy tient ses paroles. Tient sa parole et propose la série en intégralité et dans l'ordre. Le pilote, c'est lundi soir à partir de 20h45, suivi d'un autre épisode, toujours la version masterisée, soit originale, soit la version française. Voilà, je vais y arriver. Des acteurs qui réalisent, il y en a encore. La semaine prochaine sur TF1, dans la flopée. Alors ça c'est du gaspillage, tu vois, c'est comme ça que les chaînes, elles achètent un paquet de séries ou elles achètent l'exclusivité pour une série et ensuite elles te balancent n'importe comment. Pour pouvoir justifier, ok quoi, on achète les trucs, on est obligé de les diffuser, il y a un contrat et tout, on les a diffusés. Pas de problème. Alors mercredi prochain, 22h45, c'est un petit peu normal pour Les Experts Manhattan, qui est toujours une série assez sombre, assez glauque, toujours minimum moins 10, 3 épisodes, dont le premier.
Minimum moins 10. Pas mal pour dire que ça fait froid dans le dos. Hein.
Dont le premier qui s'appelle Balle de match et qui est tourné par Emilio Estevez,
le demi-frère
de Charlie Sheen, le fils de Martin
Sheen
et de René Estevez, donc tout simplement René Estevez qu'on voit au générique de la Maison Blanche, hein. Je sais pas si t'as déjà remarqué,
non,
hein.
J'ai jamais vu.
Alors il y a 7 épisodes, mais il y en a 2 autres par la suite, hein, ce qui va faire tranquille 1h30 du matin, quoi, tranquille, hein, la fin du 3ème épisode, terminus, avec du sang sur la neige. Entre mercredi, c'est également l'occasion de voir la nouveauté que nous propose M6. Tout au départ, un téléfilm, et pourquoi pas plus si affinité. Ça s'appelle Les Bleus, c'est de la production franco-française. C'est M6 qui vous le propose à 20h50 mercredi prochain. C'est au niveau de la réalisation, on va dire, du solide, hein, avec Alain Tasma qui est un vieux routier, il n'y a pas de problème. Hein. Lui, il a fait toutes les chaînes, tous les téléfilms du monde et de l'humanité, ou presque. Les Bleus, c'est quand même vachement long, 1h55 mercredi prochain. Ça a été tourné l'an dernier et cet épisode pilote, on va dire, s'appelle Premier pas dans la police, avec pour encadrer tout ce beau monde de Blubit, Patrick Catalifo qui joue le rôle du patron, donc il y aura Elliot Young, Mohamed Areski et Nicolas Gob, entre autres. C'est mercredi prochain sur M6.
T'as pas peur du sport, hein, le commissariat est pas loin, et s'il le faut, il y a quand même des bleus qui nous écoutent. Hein,
ouais, non mais attends, c'est peut-être une excellente surprise, on sait jamais. Hein. Je veux dire, quand j'ai j'ai annoncé Police District à l'époque, bon bah ok, avant visionnage, c'était pas évident quoi, tu vois. Hein,
okay. C'est vrai que c'était très dur d'entrer et on avait un peu du mal à croire au concept. Hein, et finalement,
même les fictions du vendredi soir sur la 2, bon bah ok, hein, je veux dire, au départ, bon,
oui, Legitimus t'as peur, en profiler.
Ouais, t'as peur quoi, mais enfin bon.
Ouais, mais bon, ça peut pas être plus nul que ceux de la 1 où ils savent pas ce que c'est qu'une machine à fumer ou autre chose qu'un éclairage blanc.
Voilà.
Ça fait peur, hein, des fois.
On termine ces sélections télé quand même, hein, parce que bon, je crois que j'ai tout dit là, il n'y a pas de problème. Avec une petite sélection des films de RTL 9 de la semaine prochaine.
Alors, message perso à ma petite sœur qui me dit, mais il n'y a jamais rien sur les chaînes de compléments. Alors, écoute, que là, t'as du bon.
Quelle
hein,
chaîne
fais
de compléments je voulais vous faire W9, mais enfin, je me suis abstenu. je reste terrain connu, quoi.
Du sport, tu le mérites, hein.
C'est du sport. N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. C'est pire que moi.
Alors lundi, alors ça c'est un grand classique quand même, hein, du film d'action. C'est pas le meilleur, hein, de Brandon, mais moi je préfère Rapid Fire, mais c'est Contre-attaque de Dwight Little de 92 avec Powers Booth et Nick Mancuso, hein, de la série Stingray ou de la série Matrix aussi, hein, rien à voir avec le film, la série. Mardi, alors tous les films c'est généralement entre 20h40 20h45 coup d'envoi. Mardi, Kickboxer 3 Trafic à Rio moins 12 quand même, de Rick King de 92 avec Sacha Mitchell dans le rôle titre.
Alors c'est mercredi. Lequel frère Sloan alors?
Je sais pas. Mercredi, on a Les Légendes de l'Ouest de Jeremy Achechik, hein, qui a fait des trucs, je crois, un petit peu mieux après.
Ensuite, il a fait le remake des Diaboliques et ensuite, il a fait Chapeau Melon, Botte de Cuir au cinéma.
Ah, voilà. Donc... celui-là date de 95, donc mercredi prochain, avec Patrick Swayze, avec Scott Glenn, avec Oliver Platt, qu'on a vu dans La Maison Blanche il n'y a pas si longtemps, et avec Nick Stahl. Le mec de Carnival, la série un petit peu Zarbos, hein,
qui jouait dans Terminator 3 aussi.
Voilà. Jeudi, on a Masterminds. Alors ça, c'est un film rediffusé qu'on connaît par cœur, hein, de Roger Christian de 97. Si, l'histoire où Patrick Stewart, il est méchant, mais alors il est méchant qu'il en peut plus. Il y a également Vincent Kartheiser dans ce film et Bradley Whitford, encore un autre mec de la Maison Blanche. Et vendredi, alors ça, c'est un classique, ça, je vous le fais deux fois par année, tranquille. Action Jackson. Avec Carl Weathers, ouais. Craig T. Nelson, Sharon Stone et Vanity. Action Jackson, alors rien, il faut le voir. Là, je dis chaque fois la même chose, mais ça vaut le coup. Regarde juste les 10 premières minutes, générique, et les 10 premières minutes, quoi. C'est absolument hilarant, c'est génial. Carl Weathers, c'est le meilleur du monde, il n'y a pas de problème. Jackson. Un film qui date de, je crois, 88-89, hein, mais qui se laisse regarder. Hein. Donc avant Basic Instinct, avant Total Recall, Sharon Stone, bah voilà, vous apprécierez. Je crois même que dans ce film, elle est teinte, me semble-t-il, en plus, quoi. Enfin bon, ça va être très dur, hein, de toute façon, quoi. Voilà, en ce qui concerne la télé.
Eh ben, on a débordé de 2 heures.
D'accord. Ben, vous me laissez le temps de replacer, voilà, le hein, du sport, il a encore quelque chose, non?
C'est ouais, ben je veux quand même vous
Ah, c'est bien la peine, j'essaie de caler un générique. Bon,
je vais quand même vous parler de ce que j'aurais dû vous dire à propos de sport ce week-end, et en particulier aujourd'hui, j'aurais dû vous parler de celui qui a été pris par la patrouille cette semaine. Attention, c'est pas n'importe qui. Là, il s'agit d'un joueur de basket de la NBA.
Qui
s'est pris 2 ans quand même. Hein. Et alors que quand on sait que dans la NBA, il faut minimum frauder 3 fois avant de se prendre 2 ans. la première sentence, c'est 10 matchs de suspension. Ça, tu rigoles, quoi. Non, mais c'est normal.
Et puisqu'il joue tous les 3 jours, non?
Je voulais également vous parler de rugby, parce que c'est le début du tournoi, hein, quand même. Hein, aujourd'hui,
yes,
et demain.
Aujourd'hui.
Hein.
France
demain. La France, Écosse-France, c'est demain. Les autres matchs avec, en particulier, deuxième match entre deux des prétendants à la victoire, quand même, avec l'équipe de France, l'Angleterre contre le Pays de Galles. C'est après, si c'est l'Angleterre, ouais, contre le Pays de Galles, forcé. Il y avait du foot également, il faut dire que en Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte est partie très très forte quand même, hein, 4-1 hier face à la République démocratique du Congo. C'est un petit peu dur pour les Congolais de Claude Leroy. Le deuxième match, je me souviens même plus de.
Non, pas du tout, j'ai pas suivi.
Non, non, mais c'est bon, tant pis.
Ils en sont où là?
Eh bien, il reste deux demi-finales, deux quarts de finale donc à jouer, dont un qui va commencer là maintenant. Hein, et
c'est sur Eurosport,
surtout,
ça
dont surtout le Cameroun Côte d'Ivoire.
De à la revanche,
à 18h.
En général,
donc,
c'est
deux s'annonce assez le plus palpitant de toute façon des quatrièmes quarts de finale. Et à voir de toute façon l'ensemble de ces équipes. Hein, il y a quand même des gros favoris, les gros favoris qui sont détachés. Il faut dire que la Tunisie, tenante du titre, est toujours là. De toute façon, il faut dire que l'Égypte, pays organisateur, est quand même bien parti, hein, parce que là, ils ont remis les pendules à l'heure avec cette victoire 4-1. Et entre le Cameroun, hein, qui n'ira pas au Mondial, alors que la Côte d'Ivoire y va, je veux dire que ça va être un petit peu serré quand même. Hein, ça va être un petit peu difficile quand même. Hein, le Cameroun, quand même, apparaît comme étant le gros favori, à mon avis, de cette compétition, parce que eux, ils ont que ça à jouer, de toute façon. Hein, après, ils n'ont plus rien à jouer. Jusqu'au prochain éliminatoire, donc et ils sont très très forts quand même. Franchement, il y a peut-être que l'Égypte qui peut éventuellement les inquiéter, mais enfin l'Égypte a aussi certaines faiblesses. De toute façon, mais ce serait une finale assez intéressante. La finale se jouera vendredi prochain, une heure complètement incongrue, 17h, hein, donc mais sera diffusée par TF1. Qui a décidé que ça marchait bien et puis que peut-être ce serait super cool et donc que voilà
TF1 s'occuperait des minorités
à 17h ça bouscule pas trop notre grille des programmes donc on peut diffuser le match de foot tranquille tu vois quoi et ça peut être une bonne affiche hein, de toute façon il y a pas de problème hein, de toute façon quoi parce que bon qualitativement hein, le jeu est vraiment impeccable et vraiment assez agréable à suivre
la Coupe d'Afrique des Nations les équipes nationales en général sont les internationaux de clubs européens donc
mais j'en ai parlé abondamment de toute façon
c'est bien Xavier qui s'intéresse au foot
j'essaie
avec une remarque pertinente
ça va merci
sinon voilà
la deuxième heure de du sport c'est pas encore pour tout de suite
attends sinon vite fait un petit peu de pub concernant l'équipe d'aujourd'hui parce que dans l'équipe magazine il y a quand même la photo du plus grand skieur de tous les temps et ça c'est mon avis personnel depuis tout petit de toute façon et en plus il a été élu par ses pairs c'est-à-dire par les 20 plus grands ceux qui sont estimés comme étant les plus grands skieurs de tous les temps l'ont élu le plus grand skieur du siècle Ingemar Stenmark c'est dans l'équipe magazine d'aujourd'hui donc avec d'autres trucs habituels voilà bon on va faire le changement et comme ça je vais pouvoir passer d'asile jusqu'à 3h
Ah bah voilà.
Tu vois, c'est cool.
Bah voilà, c'était supplément week-end. Et là, pendant que l'on est en train de tasser professionnellement nos feuilles et moi que je suis en train d'éjecter mes CD, et puis voilà. Zou, Thomas, si tu as compté le nombre de fois où je me suis planté lamentablement, la preuve qu'on a fait l'émission un peu vite et qu'elle était surtout extrêmement dense hein, pour cette spéciale Angoulême.
De la densité.
Ah
puis,
oui, parce que là, on a dépassé d'une heure et trois minutes.
1h03 de débordement, ouais, ça mérite.
C'est le record.
Voilà. Non, sinon moi j'ai pas tenu la comptabilité pour cette émission de reprise et je me suis pas attardé sur tes plantages, mais je me rattraperai la prochaine fois. Sachant que la semaine prochaine, question cinéma, il y aura une chronique sur le Shaitan que je vais essayer d'aller voir cette semaine. C'est le film de Kim Chapiron avec Vincent Cassel. Kim Chapiron de Courtrage mais et je crois que toi tu as
Normalement on aura la suite du débrief, il y aura une revue graphique japonaise en VF, il s'agit de Robot, de la nourriture japonaise aussi avec Yakitate Japan, Noodle Fight et Cobra, ça a quelque chose à voir avec Bebel. Et puis
sinon on n'a pas une bande dessinée anglaise peut-être.
Oui, exact, de Brian Talbot.
Voilà,
on vous racontera comment en deux long drink on peut négocier les contrats en France.
Voilà.
Et puis voilà, et puis on remercie quand même Sabrina qui nous a croqué.
Qui a fait ses chroniques aussi.
Voilà.
Et donc
Et puis rendez-vous la semaine prochaine sur Radio FMR et Dascritch.net pour l'instant et arrêté temporairement donc voilà veuillez nous en excuser la suite des programmes sur Radio FMR 89.1 MHz La deuxième heure de ça, c'est du sport, est déjà entamé. 15h, Zarma Farai. 17h, Vie d'ordure. C'est du punk. 19h, Dada. C'est une émission dadaïste avec du dada. Et on va être à Dada jusqu'à 20h pour l'Astétéro Expérience avec de l'électro bizarroïdo almano communisto disco. Et 21h30, Liquid Sky. Là, c'est yo, c'est égare mieux. Mais cette fois-ci, de l'électro un peu plus expérimental avec Digitro. Et 23h jusqu'à 4h du matin, Breakbeat Experience avec Peyo et SKS. Radio FMR, c'est en direct, intégral. Ça change, je dirais, de nos petits collègues de Radio. Donc voilà, et nous, on vous promet pas la lune. On essaie de la faire tous les jours. Et voilà, je vous laisse.
On essaie de faire la lune?
Je sais pas, je voulais dire une connerie comme ça, enfin tu vois ce que je veux dire. Une arrivée à la Monty Python si tu veux, la blague qui tombe à plat, etc. Et tout le reste. Et
allez, tout de suite, l'interlude.
Ouais, tu parles.
FMR 89.1 MHz. Allez, on va aller jusqu'à 3 heures en musique. Avec, pour attaquer, comme d'habitude, toujours des groupes avec des grosses guitares. <t'en>